Bon, alors on commence par un premier matin sérieux. Il y a des heures comme ça différentes où on est sérieusement pas sérieux, où on n'est pas sérieux sérieusement. Et quand il y a une. Voilà. Ne chiffrons plus les années que j'ai voulu. J'étais obligé de penser le rapport politique-artistique, alors qu'évidemment personne ne m'avait rien demandé sur le sujet, pas même moi, mais la pratique m'a rattrapé. Il a bien fallu que je m'interpelle sur le rapport dialectique entre artistique et politique. Donc, premier réflexe, tous les copains gauchistes du Zest se sont échappés. Je sais pas pourquoi. C'est un truc qui vraiment, il fallait absolument séparer tout ça. Et j'ai essayé, moi, avec les amis aussi, de penser la chose, la question. Et pour aller davantage et plus profondément, des amis se sont proposés de venir en parler, de venir en penser devant vous, avec nous. Voilà. Alors aujourd'hui, Monique Cheminier-Gendreau et Jacques Ralite pour nous aider à nous qui travaillons la question à penser ce rapport-là entre artistique et politique qui a l'air de rien comme ça, mais qui au quotidien dans nos pays, ben, ça pose vraiment un problème, quoi. Et c'est pas triste que ça pose problème. Au contraire, c'est intéressant que ça pose problème. Le tout, c'est de garder l'énergie pour que ça continue à poser problème. Parce que quand ça pose plus problème, ça devient des festivals de buvettes, des festivals de vide grenier, ça devient des lieux de divertissement industrialisés, quoi. Voilà. Donc, grâce à vous, on va peut-être continuer à pouvoir tenir le problème intact.
Bon, merci Bernard. Voilà, ben merci d'être là. Je vais introduire un petit peu cette série de trois rencontres que nous animons, on peut dire ça comme ça, Jacques Ralite et moi-même, en vous disant un peu plus que ne vient de le faire Bernard, comment est née cette idée d'atelier politique. Elle est née à la confluence de plusieurs choses. L'an dernier, dans un des débats, j'avais lancé en boutade qu'on allait ouvrir le procès du citoyen Luba. C'était dans ma bouche une manière de prolonger cette espèce de mise à l'épreuve de soi-même qui est le quotidien des artistes et que Bernard est quelqu'un qui pousse ça au maximum. Je n'imaginais pas que certains élus prendraient la chose au mot et passeraient leur année à dresser un réquisitoire contre Lubat, à peaufiner ce réquisitoire pour justifier au bout du compte leur arbitraire, pour ne pas dire évidemment leur lâcheté et leur inculture. Alors, très bien, si la voie des mises en responsabilité est ouverte, alors on ne va pas s'arrêter là, on ne va pas la refermer, on va élargir le procès, retourner le procès et faire aussi celui des politiques et de l'usage qu'ils font de leur pouvoir et de l'utilisation qu'ils font d'un argent public qui ne leur appartient pas. Ils n'en sont que les délégataires. Je me souviens quelque chose qui a terriblement disparu de la culture générale. Quand j'étais étudiante en droit, dans le cours de finances publiques, on nous apprenait ce que c'était que les deniers publics. Et on nous recitait ce vieil adage qui remonte à plusieurs siècles, les deniers publics brûlent les doigts de ceux qui les touchent. Pour dire à quel point l'argent public appartient à la communauté politique et naturellement, ne doit en aucun cas et d'aucune manière être privatisé ou utilisé pour des intérêts politiciens. Alors, cette première piste, nous amène à parler cette année de responsabilité en matière de politique publique. Et bien entendu, on va mettre l'accent sur les politiques publiques culturelles. Jacques va en parler dans un moment. Mais pour expliquer l'idée de cet atelier, je dois ajouter que cette première nécessité, qui est venue comme ça de la conjoncture l'année dernière, en a rejoint une autre qui est plus large. Parce que Bernard est un artiste politique, c'est-à-dire un artiste. En effet, souvenons-nous du rôle des artistes dans des périodes précédentes. Hein, je pense au mouvement surréaliste. L'artiste, il croise toujours la politique. Aujourd'hui, ce qui est désastreux, c'est que on appelle encore artiste, mais c'est un dévoiement du langage, ceux qui sont dans de la production dite artistique, qui va conduire à de la consommation de la culture. Mais l'artiste, c'est celui qui mène une action artistique et non pas une production artistique. Et donc, comme le citoyen, parce que le citoyen est celui qui s'engage dans une action politique. Alors évidemment, Uzest a toujours été un lieu où se mêlaient l'art et la politique. C'était ça la caractéristique d'Uzest, la grande différence avec d'autres festivals. Et il s'agit bien d'avoir compris que l'art et la politique sont les deux facettes de l'action et dans le même but qui est celui de la liberté. Alors, c'est comme ça que l'année dernière, certains débats ont été menés ici sur la guerre, la communauté, l'Europe, des débats qui fâchent, des débats qui sont des vrais débats parce qu'on n'est pas d'accord. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est pas intéressant de discuter si on est d'accord. Et naturellement, il faut prolonger chaque année, il faut faire revivre chaque année cette dimension du festival du Zest. D'où l'idée d'atelier politique qui rejoint celle d'œuvrier. Il s'agit bien de mener un travail ensemble parce que nous avons une œuvre à accomplir. Alors, il était tout naturel que le thème cette année soit la responsabilité. La responsabilité, celle des artistes, celle des politiques, mais aussi celle des citoyens. Ne nous excluons pas. Nous ne sommes pas là entre deux, les artistes d'un côté, les politiques de l'autre, et puis nous, pas concernés. Mais non, ce n'est pas ça la responsabilité. La responsabilité, elle est générale. Et ce mot responsabilité, il renvoie à une dimension juridique et en même temps à une dimension politique qui se mêle sans cesse. La difficulté d'aujourd'hui, dans les situations que nous vivons, comment démêler les chevaux des responsabilités? Comment attribuer à chacun sa part? Comment rétribuer, en argent ou autrement, ceux qui sont affectés par le comportement des autres? Alors, dans nos sociétés occidentales, qui sont marquées par l'esprit des Lumières, on a dégagé ces idées-là de l'idée de religion, de l'idée de Dieu, et on a mis la réflexion sous l'empire de la raison. Donc le droit doit être fondé sur la raison et on doit pouvoir, en raison, mettre en place un système dans lequel on arrivera à attribuer à chacun ses responsabilités. Alors ça donne des choses magnifiques sur le papier. Le Code civil, à cette époque justement, on sortait des Lumières et où il y avait cette langue très concise et précise à la fois, le Code civil pose les principes de la responsabilité avec l'article 1382. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Toc, deux lignes. Et en apparence, tout est dit. Tout est dit, sauf que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage. On est sur une conception individualiste et individualisante de la responsabilité. Il s'agit de faire la part de chacun. Voilà. Mais, et à partir de là, on a distingué dans une construction juridique très perfectionnée la responsabilité civile, qui est celle de cet article 1382, et puis la responsabilité pénale, à partir du moment où il y a un tort particulier avec une faute particulière. Et donc le droit va essayer de gérer tout ça. Mais le droit, c'est une lame, c'est un couteau, le droit. Le droit, ça coupe. Ça coupe parce que le droit est obligé, on n'a pas beaucoup le choix, de fonctionner par catégorie. Donc on va mettre des situations complètement individuelles qui sont toutes des singularités absolues dans des paquets qu'on va nommer. Ça ne sera pas vraiment des choses identiques, mais on va les considérer comme identiques par une fiction. Et puis ensuite, on va affecter ces choses, ces situations, d'un statut juridique. C'est comme ça qu'on s'en sort. Mais c'est comme ça qu'on coupe et qu'on tranche, parce que ce n'est pas tout à fait exact. Le droit se trompe toujours. Il nous trompe. Et dans le domaine de la responsabilité, il nous trompe particulièrement parce que ce qui lui échappe, c'est que l'agir des hommes est collectif. Et que la plupart des situations, presque toutes les situations, résultent d'un faisceau extrêmement mêlé d'actions, d'influences, de silences, de laisser-faire, de morceaux d'actions dans une chaîne. Une chaîne collective. Et la démarche juridique, elle va individualiser tout cela. Et lorsque la situation est trop complexe, je pense à une affaire comme celle du sang contaminé, mais je pense aussi, parce que comme moi je suis spécialiste de droit international, je clapote toute la journée dans des horreurs qu'on appelle les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, etc. Dans ces situations-là, La chaîne est tellement complexe qu'elle est trop difficile à clarifier. Et on se trouve devant ce que le sociologue allemand Ulrich Beck appelait une irresponsabilité organisée. Très bien organisée. Alors, est-ce qu'il faut pour autant renoncer au droit ? Non. Et ce n'est pas parce que je suis juriste que je vais vous dire ça, parce que je ne suis pas vraiment une juriste qui défend la boutique du droit, parce que je suis très critique. Mais je vais quand même vous dire qu'il ne faut pas renoncer au droit, parce que, j'ai dit tout à l'heure, on est sous l'empire de la raison. On n'est plus sous l'empire de la croyance. Du moins, on espère qu'on n'est plus sous l'empire de la croyance. Il y en a qui croient encore qu'ils peuvent trouver chez le bon Dieu une réponse. Moi, je pense que le bon Dieu, il y a longtemps qu'il a perdu son portable et que il faut se débrouiller autrement. Se débrouiller autrement, ça veut dire avec la raison. D'ailleurs, c'est la raison qui fait que nous pouvons tous nous parler. Avec la religion, on ne peut pas tous se parler puisqu'on n'a pas les mêmes. Donc. Alors, en raison, qu'est-ce que ça veut dire, la démarche juridique ? Ça veut dire que c'est cette très modeste recherche, cette pauvre recherche d'objectivité au milieu du heurt de plus en plus violent des subjectivités. Ça n'est rien d'autre, le droit. Chacun d'entre nous a une prétention à quelque chose. Nous sommes persuadés d'être ceci. Nous sommes persuadés d'avoir droit à avoir cela. Nous sommes persuadés d'avoir la capacité de faire telle ou telle chose. Et nous sommes en conflit, en rivalité avec les autres. C'est les subjectivités, elles se heurtent, quelquefois elles se font la guerre, elles rentrent en violence les unes contre les autres. Le droit, c'est, avec des moyens humains, la recherche d'un peu d'objectivité. Voyons voir, dites chacun ce que vous voulez, posez ça sur la table, et puis il y aura un arbitre, un juge, un législateur au plus haut niveau, qui va dire voilà quelle est la norme et voilà comment on va l'appliquer. C'est jamais ni définitif ni satisfaisant, mais c'est ce que les humains ont trouvé de mieux pour enrayer la violence entre eux. Et une société sans droit, nous le voyons bien dans les situations contemporaines, est infiniment pire qu'une société de droit. Regardez l'Irak, regardez la Somalie, regardez les sociétés dans lesquelles le droit, l'État, le politique ont disparu. Donc, même si le droit est insatisfaisant, même si c'est un chantier toujours à reprendre, nous avons besoin de cet outil-là. Parce qu'il est l'émanation, il est, quand il fonctionne, je dirais, la signature de la communauté politique. C'est complètement lié. C'est pour ça, d'ailleurs, que droit, politique, et d'ailleurs art, c'est la même ligne dans laquelle l'homme, dans sa recherche de liberté, assume sa relation avec les autres en faisant du lien C'est ce lien-là qui s'appelle le politique et c'est ce lien-là qui a besoin du droit pour le gérer. Alors, les échecs du droit correspondent aux insuffisances de la communauté politique, on le sait bien. Alors, dans une réflexion que je ne vais pas faire très longue, parce que je vais très bientôt passer la parole à Jacques, mais je voudrais dire encore quelques, faire encore quelques remarques sur le choix de ce thème. Dans une réflexion sur la responsabilité, on est obligé de partir d'un certain nombre de constats de base. Les constats de base, c'est que nous sommes, pas seulement la France, mais dans le monde entier, je crois que c'est un phénomène général de notre époque, il y a une crise du politique qui fait que la communauté politique, cet agrégat symbolique qui fait que nous savons que nous sommes dans un lien, cette idée de communauté politique est en crise et elle se défait au lieu de se consolider. Alors naturellement, il y a des quantités de causes. Bon, la première cause, et Bernard l'a dénoncé souvent, cette espèce de dictature de la téléconsommation qui amène à réduire la pensée uniquement à des images ou à des slogans. Mais il y en a bien d'autres des causes. Il y a cette tendance des sociétés à la recherche de ce que j'appelle le consensus mou. C'est typique, d'ailleurs, c'est toute la ligne, la prétendue politique d'ouverture de Sarko, c'est exactement ça. C'est « mais vous voyez, venez, on va être tous d'accord ». Tous d'accord sur quoi ? On ne sait pas, on ne va pas creuser, on va être d'accord. Le consensus mou, c'est le contraire de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le conflit. C'est le conflit assumé. Et là, il y a des philosophes qui ont écrit des choses magnifiques là-dessus. Moi, je vous conseille un petit livre de Miguel Abinsour, un philosophe des questions politiques. Le livre s'appelle « La démocratie contre l'État ». Et c'est une réflexion sur la démocratie comme conflit, c'est-à-dire la démocratie comme moment où on assume la pluralité des humains et où on pense l'altérité, éventuellement conflictuelle. Hein, c'est toute la différence entre l'altérité qui est l'ouverture à l'autre et l'identité qui est le repli sur soi et la fermeture à l'autre. Alors, il y a dans ce schéma qui nous conduit à cette réflexion, il y a évidemment aujourd'hui en France, là, dans le moment que nous vivons, le désarroi des forces politiques de gauche. Une véritable anesthésie, une sorte de coma, enfin, quelque chose de très grave. Quelque chose de très grave qui s'est vu dans les urnes, mais qui est surtout, enfin, c'est pas seulement une crise dans les urnes, c'est une crise dans les pensées. Alors moi, je l'avais un peu dit l'année dernière, je pense que l'une des raisons, c'est qu'on a cristallisé la notion de communauté politique sur l'État et la nation, donc sur un repli identitaire quelque part, même si on dit que la nation française, elle est pluriculturelle, etc., c'est en même temps on recrée une identité. Et donc on en oublie la pensée de la liberté. Et la gauche, les gauches, ont beaucoup de mal à se défaire de l'idée de programmes politiques ou éventuellement révolutionnaires dans des cadres nationaux. On veut un programme débouchant sur des acquis et on le veut dans un certain cadre parce que ça rassure. Et je crois que Bernard Lubat nous aide à nous déprendre de ça, de cette idée qu'on va avoir un programme et qu'au bout du programme, il y aura un acquis. Je voudrais vous citer une phrase que j'ai lue récemment dans un livre ardu mais magnifique qui s'appelle « La politique du droit international » qui est écrit par un de mes collègues finlandais. Il écrit ceci. L'histoire nous apprend combien il est difficile de croire que la révolution et la joie puissent survivre au premier moment de béatitude enthousiaste. Le matin suivant est froid et inéluctable. Et alors que nous ramassons les morceaux épars de l'engagement d'hier, nous pouvons peut-être lutter contre le cynisme de demain en essayant de nous regarder nous-mêmes de façon plus distanciée, plus réfléchie. Je trouvais cette phrase très, très parlante. Les morceaux épars de l'engagement d'hier. Hein, je trouve que ça nous dit beaucoup dans le moment où nous sommes. Mais alors, ce moment où nous sommes, dans lequel nous ne pouvons plus régler les questions dans des cadres prédéterminés, eh bien, il est caractérisé par le rôle, et c'est ça la complexité d'aujourd'hui, le rôle des déterminants extérieurs. Il est impossible de réaliser l'autonomie de la décision dans un cadre territorial donné. Quel que soit le cadre, que ce soit le cadre municipal, le cadre régional, le cadre national, le cadre continental, à chaque niveau, il y a des déterminants d'ailleurs. Et donc, évidemment, ça rend, ça rend très difficile la prise de décision. Ça, c'est une donnée qui est beaucoup refoulée par les sociétés qui sont collectivement accrochées à l'idée que les choses vont dépendre du territoire où nous sommes. Alors pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, mille sujets nous montrent que nous ne pouvons pas rester sur des déterminants localisés. Bon, évidemment, les changements climatiques, c'est l'exemple emblématique. Mais il n'y a pas que ça. La question militaire, est-ce que oui ou non nous sommes concernés par le fait qu'en 10 ans, les dépenses militaires ont progressé de 37% dans les pays de l'OCDE, 37% en 10 ans. L'aide au développement, c'est 100 milliards. Les dépenses militaires, c'est 1000 milliards pour les mêmes pays. Le retour de la dette des pays en développement, c'est 360 milliards. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ça ne nous concerne pas ou ça nous concerne? Si ça nous concerne, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on peut prendre la question de l'agroalimentaire, etc. C'est là que nous nous retrouvons devant une irresponsabilité organisée, parce que ça paraît si loin, ça paraît si complexe, ça paraît si étranger, tout cela, étranger à nous. Bien sûr, nous ne voulons pas de ces dépenses militaires. Bien sûr, nous ne voulons pas que le tiers-monde paye en intérêt de la dette plus que nous lui donnons. Bien sûr, nous ne voulons pas de tout ça. Mais comment faire? Or, il y a toutes sortes de mouvements très dangereux pour nous pousser à l'irresponsabilité. Je pense, par exemple, je relisais des articles sur ces mouvements créationnistes qui montent en puissance, y compris en Europe, qui tuent complètement l'idée de responsabilité. Alors qu'au contraire, nous devrions affiner la thèse de la responsabilité, parce qu'elle est difficile dans la mesure où il n'y a pas seulement la responsabilité de faire, il y a la responsabilité de conserver. Et c'est plus difficile encore. Alors, bon, je pourrais creuser, on le fera si vous voulez, dans les heures et les séances qui viendront, l'exemple militaire, parce que je crois qu'il est capital. Hein. La guerre en Irak, les territoires minés, les contrats qu'on vient de conclure avec la Libye, l'annonce par Bush de nouvelles exportations d'armes au Proche-Orient. Évidemment, tout ça nous met face à des problèmes pour lesquels nous devons faire l'effort de nous demander qu'est-ce que nous pouvons. Alors il faut réinventer, et je voudrais finir là-dessus, il faut réinventer ce que Hannah Arendt appelait l'agir politique. Face à la violence de la guerre ou de la police, face à la force de la souveraineté, du souverain, qui va m'opposer sous couvert de volonté générale, sa volonté à lui, la volonté des gouvernants, l'agir politique, au sens d'Hannah Arendt, c'est l'agir ensemble qui crée de la puissance. C'est ça qui est intéressant. Qui oppose la puissance d'une communauté à l'usage particulier de la force par le pouvoir. C'est le fondement de la désobéissance civile. C'est la puissance d'une communauté qui, en se rassemblant, fait trembler le souverain. Alors, comment pouvons-nous réaliser ça? Bien sûr, ça renvoie à un débat qui a été très présent ces derniers mois, qui est celui entre démocratie représentative et démocratie participative. Ça, c'est un débat très important. Il faut aller plus loin, parce que Ségolène Royal avait lancé l'idée des jurys populaires. Et du coup, chacun s'est demandé qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est dans une transformation de la démocratie ou une évolution? Bon, moi, je ne crois pas du tout qu'il faille opposer l'une à l'autre. Les représentants de la souveraineté nationale, on en a besoin. Le mécanisme de la représentation, on en a besoin. Mais il faut le compléter. On voit bien qu'on ne peut pas réduire ça. Je me souviens d'une phrase de Michel Debré, qui n'était peut-être pas le pire pourtant, dans un petit bouquin qui s'appelait « Ces princes qui nous gouvernent », paru chez Plomb il y a plus de 30 ans. Il écrivait « Le bon citoyen, c'est celui qui, quand il est consulté pour une consultation électorale, tous les 4 ans, 5 ans, va faire son devoir et ensuite revient s'occuper de ses affaires privées. » Voilà. Donc, on met le bulletin dans l'urne et après, c'est fini. C'était ça la conception de la démocratie représentative chez quelqu'un comme Michel Debré. Alors, bien sûr, non, c'est pas ça. Nous devons reprendre l'idée que la démocratie, d'abord, c'est pas un texte révélé. Les textes, la Constitution, la loi, la Charte des Nations Unies, etc., C'est des textes dont la responsabilité nous incombe. Nous devons nous prononcer, nous devons dire ça va pas, il faut les refaire. De toute façon, les textes, ça bouge, ça vit, c'est jamais définitif. Donc, la démocratie, c'est pas un texte révélé. C'est pas un souverain autoproclamé. Hein, la souveraineté est une idée qui a certains versants positifs, mais à mes yeux, a beaucoup de versants très dangereux. Donc, c'est pas non plus une assemblée mandatée sans contrôle. La démocratie, il faut la réinventer sous des formes nouvelles. C'est une phase de l'histoire, la démocratie représentative. Je ne crois pas qu'elle ait épuisé ses effets, mais je crois qu'on est entré dans un moment où il faut inventer des formes nouvelles. Parce que nous sommes dans un moment où la violence nous menace de plus en plus. Parce qu'on voit bien que la démocratie représentative dans les formes classiques a quelque chose d'usé. Le lien politique, ce qui fait la communauté politique, se distend. Et quand le lien politique se distend, la violence fait irruption. Et donc, voilà pourquoi il faut parler de tout ça ici. Ici, parce que art et politique sont bien les deux facettes différentes de cette même recherche du lien dans la liberté. Un lien qui n'est pas un lien de domination, un lien qui n'est pas un lien d'hégémonie, un lien qui est ce qui fait communauté. Et évidemment, les deux, l'art et la politique, sont soumis au même risque, la domination du pouvoir et la domination de l'argent. Et face à ça, il faut toujours être des insurgés. Nous avons en nous absolument besoin de la conception même de l'insurgé, la révolte. Mais le problème est aussi dans les moyens. Alors, les lignes de fuite, comme disait Deleuze, le nomadisme, Bernard le pratique, voilà. Les citoyens le pratiquent aujourd'hui avec Internet. Mais c'est étonnant et il va bien falloir en parler davantage parce qu'on a finalement deux sociétés politiques. La société politique qui s'exprime dans les débats publics et dans les médias audiovisuels. Et puis une autre société politique par Internet où il se passe plein de choses et qui n'a pas accès à la visibilité. Or, la question de l'artiste comme du politique, c'est la question de la visibilité. Ce que je fais ne sert à rien si je ne le fais pas dans une visibilité par rapport aux autres. Et puis après, il y a toute la question des moyens de l'action. Et c'est vrai que ça, c'est une question contemporaine très difficile parce que la violence révolutionnaire qui fut un temps l'outil du changement, nous avons changé d'époque et aujourd'hui, on est à l'époque des droits de l'homme, heureusement peut-être. On est à l'époque de la condamnation de la violence. Mais du coup, est-ce qu'on est à l'époque du conformisme politique installé, c'est-à-dire il n'y a plus de moyens? C'est une vraie question. Moi, je me dis souvent, quand on travaille sur la Révolution française, qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé pendant la Terreur serait qualifié de crime contre l'humanité. Donc, on a une autre perspective aujourd'hui sur la question de la violence. Qu'est-ce qui reste comme possibilité? Est-ce qu'il reste encore une possibilité de violence politique et comment on en parle? Ou est-ce qu'il n'y a plus d'accès à la violence politique? Alors, quels sont les moyens de la politique, de l'agir politique aujourd'hui? Voilà une série de questions difficiles que je voulais lancer pour introduire. Donc, le petit programme qu'on vous a concocté, mais que vous allez faire avec nous, c'est que je vais passer la parole à Jacques, qui va reprendre une question qu'il connaît magnifiquement, qui est celle des politiques culturelles, puisqu'il a passé sa vie à entrer dans ce sujet et à ne pas le quitter. Après, on va débattre. On a encore deux rendez-vous demain et après-demain. Demain matin, si vous le voulez bien, moi, j'introduirai sur quelques questions. Vous avez peut-être vu dans le cahier que j'ai fait un petit texte avec toute une série de questions qui sont relatives à la responsabilité au sens large. Donc, on pourra piocher dans ces questions et débattre de ça. Nous aurons d'ailleurs avec nous des fidèles du ZEST, je crois qu'ils ne sont pas arrivés aujourd'hui, mais qui sont des gens qui ont monté une association à Nantes qui s'appelle Coordination Marée Noire et qui ont suivi les mois derniers tout le procès de l'ERICA parce que leur association s'était portée partie civile. Donc, c'est des gens qui ont mis en œuvre vraiment l'idée de responsabilité. Alors, je crois qu'ils seront là demain matin. Ça sera l'occasion peut-être de les faire parler de leur expérience. Voilà. Et dimanche, nous avons la projection du film de Thomas Lacoste qui introduira le débat. Voilà. Merci encore à tous d'être là. Je passe la parole à Jacques.
Bon, ben c'est mon tour, alors. Je ne sais pas trop comment démarrer après t'avoir, comment dirais-je, écouté, parce que tu as évoqué beaucoup des problèmes. Moi, je vais surtout parler de mon expérience. Je m'excuse, mais ce n'est pas pour mettre le « je » en avant, parce que je ne conçois pas le « je » sans le « nous ». Mais précisément, dans cette expérience, il y avait la mêlée du « je » et du « nous ». Mais je le fais parce que, ayant un certain âge, j'ai quand même rencontré les questions que vient de soulever Monique pendant pas mal d'années. Et je voudrais ne pas me limiter à la circonstance aujourd'hui, si même celle-ci est particulièrement fondamentale. Mais au départ, je dirais deux choses. La première, pour aller dans le même sens que ce que vient de dire Monique, mais je tiens à le dire, et je crois qu'il faut le dire brutalement, le problème des gens de progrès en France, et plus précisément de deux partis politiques, le Parti socialiste et le Parti communiste, auxquels sans doute certains d'entre vous appartiennent, c'est la société. Le monde d'aujourd'hui. La percée des sciences, les nouvelles technologies, les nouveaux modes d'organisation de la production, les nouveaux produits, l'explosion des services, la concentration urbaine avec tout ce que cela entraîne de rupture dans les savoirs, les métiers, les groupements humains, les transmissions entre générations, les comportements individuels, et puis la mondialisation libérale, d'autant plus triomphante que le système qui se voulait porteur de la seule alternative globale connue s'est effondré. Et dans ce paysage bouleversé, des mots, M-O-T-S, mais aussi M-A-U-X, nouveaux ou ressurgis d'un passé lointain, chômage endémique, délocalisation, Dow Jones, CAC 40, effet de serre, paradis fiscaux, réseaux mafieux, traite des nouveaux esclaves jetés sur les trottoirs de nos villes, épuration ethnique, intégrisme. Je crois qu'on peut arrêter là. L'énumération, mais pour poser une simple question, de ces bouleversements survenus depuis 20 à 30 ans et porteurs à la fois d'extraordinaires potentialités de développement et de plaies purulentes, de semences et de débris, comme dirait Musset, qu'en ont tiré les forces progressistes, et singulièrement les deux que je viens d'évoquer, en termes neufs de projets, d'objectifs, de structures, de pratiques, la réponse va presque de soi, peu de choses. Et je crois qu'il faut avoir constamment, enfin pour moi, à l'esprit cette question-là, si on souhaite aller de l'avant. La deuxième chose, c'est un petit peu circonstanciel, mais en bouquinant, et ou en écoutant la télé, mais peut-être l'avez-vous noté aussi, j'ai entendu l'autre jour le président de la République dire « Je ne suis pas un théoricien ». Oh, je ne suis pas un intellectuel, je suis quelqu'un de concret. Sa ministre des Finances, Christine Lagarde, prenez-y garde, c'est sans doute une des ministres les plus importantes, elle dit, la France est un pays qui pense, j'aimerais vous dire, assez pensé maintenant, retroussons nos manches. Et comme par hasard, je vous donnerai au mot hasard, que vous souhaitez lui donner comme sens, la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail, Madame Parisot. Je trouve que ce rapprochement des trois, il y a deux femmes et un homme, d'ailleurs la parité n'est pas respectée, là, n'est-ce pas ? Et cette espèce d'attaque en règle au niveau le plus élevé du grand patronat moderne et du pouvoir doit nous préoccuper immensément. Alors, ça n'est pas seulement d'aujourd'hui que la question se pose. J'avais relevé une phrase de Jean Cassou après la libération. Si l'activité générale de ce temps est de s'efforcer à ne plus penser du tout, il y a encore mieux à faire, c'est de penser des sottises. Ou de Lefebvre, un philosophe marxiste, dont on devrait d'ailleurs relire les livres. Va donc, désintellectuelle-toi, déphilosophie-toi, décébralise-toi, ou plus grossièrement, simplifie-toi, retrouve la nature, ou plus subtilement, désencombre-toi. Donc c'est une question qui s'est toujours posée. Mais là, elle se pose avec une force inouïe. Et alors, je pensais à Bernard Duban, qui dans un article paru dans l'Humanité, la pensée fait peur, ils me font passer pour un insoumis. Ça rejoint ce que tu disais. C'est-à-dire que rien qu'en citant Sarkozy, Lagarde, Parizeau, mais excuse de ne pas dire mesdames, Cassou, Lefebvre et Bernard Duban, on voit bien de quel côté est la pensée, quoi. Et du quel côté elle est aussi, mais d'une certaine manière, en tout cas, combattue. Donc, quand je vais dire quelques mots, là, j'espère être assez court d'ailleurs, parce que ce n'est pas facile d'être court pour moi, hein, eh bien, ce que je viens de dire sur les changements, et ce que je viens de dire sur la pensée, j'y reviendrai pas, mais c'est dans ma tête. C'est dans ma tête, et je pense qu'il faut y songer beaucoup. Alors, vous le savez bien, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un technicien non plus. J'essaie tout simplement d'être un politique acteur de la société, avec une pratique à laquelle j'ai essayé de ne jamais déroger. J'ai une main chez les ouvriers et une main chez les artistes. La formule, comme toute formule, elle simplifie, mais enfin, vous avez bien compris ce que je veux dire. Et s'il y en a une des deux qui s'éloigne de l'objectif qu'elle a, la main de l'ouvrier ou la main de l'artiste, c'est symbolique ce que je dis là, hein, eh bien, je boite. Et comme je n'aime pas boiter, je ne lâche jamais des deux côtés. J'ai un objectif, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis engagé en politique, c'est l'émancipation de l'humain. Alors, je vous le dis parce que ça compte dans ma tête et dans ma vie et dans la façon dont je m'exprime. En 1957, j'ai créé la petite rubrique de télévision de l'Humanité Dimanche. Ça faisait un quart de page. C'était la télé démarrait seulement. Hein, il n'y avait que trois journaux qu'on avait. Le Figaro, le Parisien, qui s'appelait encore Libéré. Et donc, l'Humanité Dimanche rejoignait le lot. Et j'ai été alors marqué par l'école des Buttes-Chaumont. Ceux qui ont des cheveux blancs dans la salle doivent s'en rappeler. Et les téléclubs qu'on organisait à Aubervilliers, où je vis, presque mensuellement, et qui réunissait, entendez le chiffre, jusqu'à 600 personnes. On mettait des postes que nous prêtaient des commerçants, les gens n'avaient pas la télé, et ils venaient. Et toute l'équipe, au moment de la télévision en direct, début de Chaumont, après la représentation, les artistes et techniciens descendaient. Alors je dis ça parce que souvent, la télé, on lui tire dessus, mais elle aurait pu être autre chose. Et il y a eu une certaine fuite à l'époque du début de la télévision. Et je dis le mot, une fuite intellectuelle. Moi, j'ai vu des enseignants qui disaient « Ah, moi, je n'ai pas la télévision avant même qu'elle ne commence. » Oubliant que leurs élèves, qui étaient orphelins de savoir quand ils les rencontraient, devenaient porteurs d'une sorte de nouveau savoir dont l'enseignement devenait orphelin. Donc, la télévision, il faut toujours penser que c'est une technologie, un point, c'est tout, et qu'elle est ce qu'on en fait. Et j'ai vécu intimement et profondément, pendant 10 ans, les journées où elle a été, ce qu'elle pouvait être. Donc, rien n'est perdu de ce point de vue-là. Après, j'ai été adjoint à la culture en 1959 à Aubervilliers, qui avait un maire, qui était ouvrier P3, un maire communiste, et qu'Adamoff appelait le Lord Maire, parce qu'une des premières pièces de théâtre était une pièce irlandaise, il l'appelait le Lord Maire, n'est-ce pas ? Et qu'avait un sens aigu de la place de la culture et de l'art, et qui n'a pas commencé en pensant « Tiens, ça fera du tourisme. Tiens, ça satisfera une partie de la population, je pense aux cadres. Voyez, tiens, ça sera une gloire locale. » Il a tout simplement pensé un investissement humain, parce que l'homme, la femme, enfin tout être, est porteur d'imaginaire potentiellement, et en rencontrant d'autres, il peut le développer, et plus il le développe, plus il en a, comment dirais-je, envie, désir. J'aime pas trop le mot besoin, je préfère envie, désir, n'est-ce pas ? Et donc bonheur à le partager. Et on a donc créé le théâtre de la Commune, qui a 42 ans cette année, qui est dirigé par Didier Besas, et qui est un théâtre qui refuse le règne du chiffre, j'y insiste, qui refuse le règne du chiffre. Je sais bien qu'il faut compter, surtout quand on a le SMIC, on compte, on ne peut pas aller plus loin que le SMIC. Mais vous voyez bien quel chiffre je pense, qui refuse le règne du chiffre et où bourdonne la vie et où ceux qui s'en occupent et ceux qui le fréquentent ne demandent qu'à épanouir son épanouissement avec un répertoire contemporain qui décongèle. En ce sens, il y a avec Bernard Luba une complicité évidente. Et c'est sur cette base militante qu'en 1966, vous me direz, je remonte loin, mais je ne fais pas du passé table rase, qu'en 1966, Jean Villard m'a invité à Avignon pour raconter comment ça se passait dans une commune de la banlieue parisienne où est né le premier théâtre permanent. Et garant qu'il l'a fait, donc un artiste, il a fait un grand acte politique, torsadé avec la volonté politique de la ville, hein, et puis qui tient le coup, quoi. Mais c'était vraiment un acte de fondation, n'est-ce pas? Alors, j'en ai envie de vous dire ça, parce que comme ça, j'enracine ce que je vais dire, n'est-ce pas? Mais je voudrais dire un petit mot d'Avignon, quand même. Parce que c'est un festival comme le festival de Luba, quoi. Enfin, il s'appelle pareil. Mais en tout cas, il a une histoire plus ancienne. Il n'est pas sur le même registre, mais il a subi des assauts politiques qui ne sont pas terminés, de la même violence. Et j'emploie le mot violence, pas au sens physique, mais au sens d'une pensée contraire que ce que subit aujourd'hui Bernard Luba. Et il avait, Villard, à l'époque, à son époque, comme Luba aujourd'hui, il avait sans arrêt la volonté de changer le visage de son festival. Moi, je pense aux années 66-67. Enfin, je ne sais pas, il y a certains d'entre vous qui se rappellent du TNP. Enfin, l'homme qui l'a porté si haut, même si ce n'est pas lui qui l'a fondé, c'est Firmin Gémier. Je dirais un peu, je suis content parce qu'il est né à Aubervilliers. Mais celui qui l'a fondé, le TNP, c'est celui qui l'a, je pèse mes mots, chassé d'Avignon. Vous voyez le courage de la mutation? Il a dit un jour, non, plus comme ça. Et c'est l'année où il a invité Planchon, où il a invité Billet-Doux, où il a invité, je me rappelle, Reggiani, jouant dans Silence les arbres remuent, les gens ils comprenaient pas. Où il a invité Béjart, où il a invité Jean-Luc Godard présentant la chinoise sur un grand drap qu'il avait amené et qu'on avait pendu dans la cour d'honneur où tout le monde se disputait. C'était en 67, parce que ça voulait rien dire, sauf qu'en 68 on s'est dit tiens, ça voulait dire quelque chose. Et encore que c'est pas sur ce dire là seulement qu'il faut se polariser quand on appréhende l'œuvre de Godard. Mais voyez, dès le début, c'était un homme qui vivait et qui voulait nous faire vivre. Est-ce que Saint John Perse, parlant de la poésie, quand il a reçu le Nobel, disait « C'est le luxe de l'inaccoutumance. Seule l'inertie est menaçante. » Pour moi, c'est ma morale, genre style La Fontaine, mais c'est Saint John Perse, qui guide mes décisions politiques au sens de défendre et de promouvoir, et pas seulement de protéger, l'art et la liberté de création. Le luxe de l'inaccoutumance, seule l'inertie est menaçante. Et je dis ça, c'est pour qu'on s'inscrive dans une histoire. Comme dit Aragon, il faut se souvenir de l'avenir. C'est pourquoi j'ai dit un petit moment, on ne fait pas du passé table rase, parce qu'il y a un peu une manie pour être neuf, il faut tuer père et mère. Moi, je n'ai jamais tué ni mon père, ni ma mère, mais c'est vrai que je leur ressemble, ils ne leur ressemblent pas en même temps. Et les deux parties de mon être ont une importance. Hein, ont une importance. Mais Villard, quand il sentait bien que c'était dur, cette question, celle que Luba vit là, depuis 1999, pour la première fois où ça s'est, le bouchon a sauté, puis depuis ce qui se passe cette année, et bien en 1967, il m'avait dit « Vous ne voulez pas me faire une réunion entre artistes et élus municipaux ?» Et c'est la première fois en France qu'avait lieu cette réunion. Et la grande question qui a été disputée, c'était le répertoire, n'est-ce pas ? Donc, la liberté de création. Et deuxièmement, qui dirige les festivals ? Qui dirige les équipements culturels ? Et je me rappelle de Planchon disant aux élus, avec un peu la rudesse ardéchoise dont il est coutumier, « Nous, on veut le pouvoir au créateur. » Il ajoutait, il faut y penser d'ailleurs, « On veut le statut de chercheur. » Je crois que c'est important de rappeler cette phrase, le statut de chercheur. Ça a été une discussion, mais j'allais dire violente, mais j'aime mieux comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était des gens qui devenaient en fait presque des amis, c'est-à-dire qui osaient se dire ce qu'ils considéraient comme leur vérité. Mais ça a été un débat que je ne suis pas prêt, d'oublier, n'est-ce pas ? Et il y avait des idées qui avaient commencé à reculer. Maintenant, il y a des surgeons qui sont revenus. Je vous les énumère, n'est-ce pas ? L'adieu, en quelque sorte, à quelques mythes retardataires. La culture, œuvre de bonne volonté, il faut en sortir de ça. Œuvre de bonne volonté, qu'est-ce que ça veut dire ? Œuvre de bonne volonté, hein ? La culture comme objet de comme produit de consommation. Et alors là, vraiment, on n'a pas avancé, on a reculé, hein, comme objet de consommation. Et la culture unanimiste, qu'est-ce que ça a occupé les débats, ça ? Et souvent, on se dit, on se bat sur telle idée, sur telle chose, mais dès qu'on est en face d'une œuvre, alors là, tout ça, c'est réglé. C'est pas vrai. Même si ce sont d'autres phénomènes qui se passent sur le plan humain et qui peuvent nous rapprocher. Et puis, il y avait la dernière... Il y a aussi la culture bonne volonté individuelle. Et puis, la culture Cendrillon. Mais tu l'as évoqué, c'est-à-dire les moyens, n'est-ce pas ? Mais je rappelle qu'à cette époque-là, je parle de Villard, je parle des artistes qui faisaient et tenaient des assises nationales de la culture à l'époque... Ça s'appelait comme ça. C'était les premières depuis la Libération. Mais il y avait aussi le mouvement politique. Et comment ne pas rappeler, en 1966, la session du comité central du Parti communiste français reconnaissant la liberté de création. Décision atypique, anormale, je dis bien atypique, anormale, dans le mouvement communiste international. C'est la seule organisation communiste qui a fait une session sur cette question-là et qu'il l'a résolue de cette manière-là. Et quels que soient les aléas et d'autres domaines, ça reste une petite lumière phosphorescente. Ça reste une petite lumière phosphorescente, n'est-ce pas ? Et ça avait des conséquences. Moi, je vois Aubervilliers quand Garand a monté Le Marchand de glace est passé, qui était une tentative avec Off Limits et La mort d'un commis voyageur de faire connaître en France, finalement, l'Amérique. Mais Le Marchand de glace est passé d'O'Neill, c'est peut-être sa plus belle mise en scène qu'il a fait Garand, mais c'est le plus beau, le plus bel échec qu'il n'ait jamais rencontré. Il n'y avait personne dans la salle. Et alors les gens d'Aubervilliers, qui depuis 5-6 ans se battaient à notre appel, mais aussi selon leur volonté, donc il ne faut pas exagérer la puissance, disaient comme ça, mais qu'est-ce que c'est alors, le théâtre ? On voit des sous-l'eau, on voit tout ça, vous voyez ? Et il commençait à avoir envie de donner un petit coup de scie à la branche sur laquelle on avait contribué, lui aussi, à asseoir Garand, qui l'a fondé. Eh bien, la section d'Aubervilliers du Parti communiste français a sorti un texte sur la liberté de création de Gabriel Garand. Ça ne paraît pas, mais c'est un événement. Hein ? Et je pense qu'il faut continuer, d'ailleurs. Il faut continuer sur ces questions-là. Et je dis ça parce qu'à l'époque, Malraux, dont d'ailleurs aujourd'hui certains nous disent, mais c'est terminé. Il y a beaucoup de choses de terminées, mais il y a beaucoup de choses qui durent et qui ne sont pas encore nées. Mais Malraux interdisait, comment dirais-je, la pièce d'Armand Cathy, La Passion du général Franco au TNP. Malraux interdisait La Religieuse au cinéma. Je dis ça parce qu'il faut toujours se méfier de la mythification. Qui risque de devenir une mystification. Comme j'aimais bien Malraux, j'ai envie de dire les choses que je pense totalement, quoi. Je dis ça pour montrer. Vous voyez la bagarre que c'était. Et puis Malraux, je le dis, le théâtre de la Commune qui existe 42 ans après, vous savez la contribution que son ministère a apportée, et pourtant c'était un nouveau ministère, construction et fonctionnement compris. Un prêt, c'est-à-dire qu'on peut le reprendre, de 30 projecteurs et de 2 tables à repasser. Et Garand, on le payait comme ouvrier paveur. Je dis ça aussi pour les jeunes, c'était pas facile aussi à cette époque-là. Vous voyez ? Vous vous rendez compte ? Et c'est en 77 que là, on a eu un statut, et là, l'État a été très bien. Mais en vérité, s'il a été très bien, c'est qu'on a fait ce qu'il fallait pour qu'il le soit. Et puis, certains ministres ont arrangé les choses aussi, un homme comme Duhamel, n'est-ce pas ? Vous voyez ? Par exemple, d'autres aussi. Donc, vous voyez comment les choses se sont passées. Alors, je ne veux pas, vous raconter ma vie, parce qu'à cette époque-là, j'en étais qu'à la moitié, et vous voyez que ça sera un peu long, n'est-ce pas ? Hein ? Mais j'ai rencontré le début, parce qu'on n'oublie jamais ses fondations. Voyez, et en vérité, c'était des fondations d'action, des fondations de lutte, et des fondations de rigueur. Et je crois qu'il faut continuer, sans oublier, et l'artiste, et les intellectuels, et l'ouvrier, et l'ensemble aujourd'hui de ce qu'on appellerait, parce qu'il faut plutôt penser comme ça, le monde du salariat, de l'ouvrier au cadre. Les ouvriers qui existent toujours. Je trouve que Mauroy, il a eu raison en 2002 de dire, mais c'est quand même pas un gros mot. Hein, aujourd'hui, il y en a d'autres gros mots. Hein. Création, par exemple. C'est devenu un gros mot. Et j'ai bien peur que penser le devienne aussi. Donc voilà, tout ça, ça tourne autour de Villard, n'est-ce pas, hein, qui a essayé de faire vivre les lois du poétique. Et nous savons fort bien, et il n'y est pas étranger, qu'elles ne recouvrent pas les lois du politique, même si elles peuvent s'accompagner, s'épauler, chacune gardant sa spécificité. Et je dois le dire, je suis heureux d'avoir été camarade de briganderie culturelle de Jean Villard. C'est autre chose que les relations de seconde main qui existaient et existent encore entre artistes et politiques, les uns et les autres se portant à la boutonnière, vous savez. Le dernier ministre Donadieu de Vabre, il y avait au moins 3 demi-journées par semaine où sa tâche essentielle était de mettre des légions d'honneur ou des comment ça s'appelle, les mérites à des artistes. Bon, moi j'ai eu quelques... des arts et lettres, j'ai eu quelques artistes que, amis que je suis allé pour écouter. Quoi. Mais c'était beau ce qu'il disait. Puis l'artiste, il était fier aussi, d'une certaine manière. Et tout le monde, il était content. On était tous gentils. Mais vous savez où Denis Vabre a fini ? Il n'est même plus député. Hein ? Il est devenu intermittent de la vie politique. Mais je veux continuer avec Villard un petit moment en lisant... Le 22 mai 71, un soir, je rentre à la maison et ma femme me dit, Villard, il a téléphoné, il voudrait que tu ailles le voir demain à 9h. C'était un samedi, c'était donc le lendemain dimanche. Alors bon, je me suis dit, il veut me voir, quoi. Donc j'y vais. Et alors j'y suis allé. Et on a bavardé. Et il a bavardé, c'était lui qui causait. Donc de 9h30 jusqu'à 15h. Oui. Alors il m'a raconté des tas de choses. N'ayez pas peur. C'est pas la longueur de mon exposé. Mais à un moment donné, il m'a dit qu'il avait écrit une lettre à Malraux. Alors, on était le 23 mai, et la lettre est du 16 mai. Alors, j'étais un privilégié de l'oreille, n'est-ce pas ? Et voilà ce qu'il dit. J'en lis juste un extrait, parce qu'elle est assez longue. « J'ai toujours pensé, suis-je le seul, que De Gaulle, en vous proposant les affaires culturelles, ignorait, que dans les circonstances du moment, il ne vous offrait que du vent. Dans cette bonne et grasse société à intérêt, de Guizot à Pinay à Pompidou, les affaires, quel mot culturel, ça n'a pas existé, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Ce qui ne veut pas dire que votre venue aux affaires n'ait pas été significative et en tel secteur efficace. Simplement, on eût préféré voir le pouvoir créateur, vous, dans un autre secteur plus consistant, plus exigeant, celui de l'éducation nationale, par exemple. Franchement, Malraux. Et je ne m'amuse pas à être irrévérent à bon marché, à choisir entre Fouché, Perfit et vous, entre les ambassades, l'école normale et le colonel Berger, où est le choix du courage politique? Mais non, il fallait assurer le pays, le ramener en 58-59 à une situation apaisante. On a libéré le pays des charges de l'empire colonial. En quoi l'a-t-on libéré des structures d'une société écrasante, mesquine, fin de siècle? Quand j'ai rencontré le général en mars 68, ceci grâce à votre intervention, n'est-ce pas, j'ai été comme stupéfait, non pas seulement par ce sentiment, excusez-moi, de solitude qui émanait de sa personne, mais aussi de la distance qui existait entre ce solitaire affable et d'une extrême courtoisie naturelle et les putasseries criminelles de cette société bonne bourgeoise qu'il a sauvée, qu'on ne sauvera pas toujours, Dieu merci. Quand je suis sorti du bureau du général, quand sous mes semelles j'ai entendu crisser le gravier de la cour de l'Élysée, j'ai compris beaucoup de choses. Certes, j'ai poursuivi l'étude et la rédaction de mon rapport sur l'opéra, il le faisait avec Boulez et Béjart, mais il a démissionné de cette tâche. Après, il m'a dit ce jour-là que peut-être il n'avait pas bien fait. Il ne faut pas trop laisser le fauteuil vide, n'est-ce pas? Mais j'en ai bien vu alors et désormais la vanité et la puérilité. Dans ce secteur, celui de la création musicale et chorégraphique comme dans bien d'autres, et quelles qu'aient été les connaissances et le courage de mes complices d'alors, ceux du rapport sur l'opéra, j'ai bien compris que l'épaisseur sociale empêcherait tout mouvement, toute réforme profonde, disons toute révolution artistique. Le discours du 30 mai, qui est un indigne mensonge politique, Malraux, qui est un très vulgaire discours électoral au mon auteur de la condition humaine, n'a pas confirmé mais consacré, rendu à mes yeux historique cet état de fait. Cette société est triste et sans esprit parce qu'on ne lui donne qu'à penser. Fric, il allait loin. C'est vrai, il faut penser qui il était et qui était Malraux. Mais me voici hors de mon propos. Je veux dire loin de mes très pures raisons de vous écrire. Nous avons parlé hier du divorce, ou plutôt du mariage cruel, illustré d'actes criminels entre le pouvoir politique et le pouvoir créateur, du romancier au poète et au réalisateur cinématographique, etc., dans les pays socialistes. Vous avez répondu longuement et d'évidence, avec une très grande générosité de jugement, de sérénité, à ce sujet. Cependant, ce mariage cruel, et c'est peu dire, cette sorte de danse de mort, existe aussi dans les sociétés occidentales, Europe, Amérique, Afrique et Japon, c'est-à-dire dans les sociétés capitalistes. Vigny, pas si bête, traite déjà de la sauge dans Stello ou les consultations du docteur Noir. Cela dit, les hommes politiques de l'Occident, en raison même du pouvoir coercitif et absurde du pouvoir politique des régimes socialistes sur les créateurs, prison, mort, interdiction d'hétérité, etc., ont bonne conscience. Ça se résume, voyez là-bas et voyez chez nous, choisissez. Nous sommes la liberté et nous la défendons, Malraux, André Malraux. Ils ne défendent et ne représentent pas plus la liberté absolue que je ne défends ou représente la vertu ou la rosière de mon village. Ou ce sont des tartuffes, et il faut le dire, ou ce sont des ignorants, et il faut que vous leur expliquiez gentiment la réalité. Bref, voici la question. Vous avez vécu pendant plus de 10 ans au sein des mêmes affaires politiques, à la droite du chef de l'État. Êtes-vous prêt à exposer publiquement, c'est-à-dire même devant le témoin qu'est la caméra, la difficulté extrême, l'impossibilité de concilier durablement liberté de création et pouvoir politique sous quelque régime politique qu'elle se soit? Certes, la dictature du prolétariat, ou plus exactement, l'administration socialiste doit s'effacer devant la création artistique, comme doit être supprimé dans une société bourgeoise et française le contrôle des ministres, des administratifs et des maires, etc., à l'égard de cette même création. Mais est-ce concevable, votre opinion? J'ai voulu lire, c'est un large extrait, parce qu'il disait tout, en fait, et qu'on ne pourrait pas changer grand-chose pour mettre la date de 2007 à la place de celle de 71, vous voyez. Donc, c'était hier, c'était avant-hier, c'est historique. La question des rapports entre l'art et la politique est un rapport contradictoire, conflictuel. Et ceux qui cherchent l'unanimité, tu penses comme ça, je fais ce qui te plaît, ça n'est pas un artiste. Ça n'est pas un artiste, c'est un marchand, dans le meilleur des cas, parce qu'il gagne quelque chose, et c'est un stupide. Il fait des sottises, comme disait tout à l'heure Jean Cassou dans la citation que je rapportais. Voyez. Et pour citer un autre grand, il y a eu le Festival des mots à Toulouse. Et il y avait une journée entière sur Julien Gracq. Ils m'ont demandé de lire un texte. J'ai dit, je ne suis pas comédien. Ils ont dit, si on voudrait que vous le lisiez, vous. Bon. Alors j'ai lu La littérature à l'estomac, écrit en 49, édité en 50. Je vous assure que tout y est. Ça ne veut pas dire ce que j'ai dit au début, c'est absurde, que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés existaient déjà. Mais sur ce fond fondamental de la vie humaine, n'est-ce pas, où tous nous, dans le cœur, dans l'esprit, dans les tripes, tout y était déjà. Et aujourd'hui, il y a des moyens nouveaux qui jouent, mais tout y était déjà. Tout y était déjà. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu démarrer par ça, parce que autrement, si on oublie qu'on est sous le régime des gens qui n'aiment pas la pensée, alors qu'on a tellement de choses à penser parce que le monde est différent, hein, et si on oublie que c'est une grande bataille, vous voyez, c'est Peggy qui dit « Je n'aime pas les gens qui réclament la victoire et qui ne font rien pour l'obtenir, je les trouve impolis », quand je dis ça, je salue la politesse de l'Assemblée, mais je dis tout de suite, ayons vite des excès de courtoisie, parce qu'il y en a besoin, n'est-ce pas ? Il y en a besoin. Il y en a besoin. Alors, arrivons à aujourd'hui. Je ne vais pas raconter l'histoire de Luba. Je crois que d'ailleurs, hier, il a fait une réunion, il a dû expliquer, n'est-ce pas ? Puis, enfin, dans la presse, il y a eu un article dans Le Monde qui est tout à fait intéressant. Il y a eu cette série d'articles de fin de page dans l'Humanité. Je crois qu'il y en a eu une dizaine, je crois. Hein, je ne sais pas si c'est le dernier aujourd'hui, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais enfin, bref. Il y a eu, et puis, il y a eu encore un peu d'autres articles, n'est-ce pas, hein. Mais on sent bien, rien qu'à évoquer ça, que tout ce que je viens de dire s'est cristallisé d'une manière un peu nouvelle, mais fondamentalement la même, autour de ce que fait Luba et son équipe et la population avec laquelle il a tant de torsades, n'est-ce pas, hein. Par exemple, il y a une chose que je trouve que Luba fait très bien, c'est le jeu et le nous. Et disons que ça, c'est nouveau. Parce qu'à l'époque dont j'ai parlé, il y avait les « je » et il y avait les « nous ». Moi, je suis la traduction du « nous », vous savez. Je dirais même que dans ma jeunesse, j'étais dans le « nous » fusionnel, n'est-ce pas, hein. C'est bon du point de vue du cœur, mais qu'est-ce que c'est gênant du point de vue de la tête, n'est-ce pas. On est heureux de se tromper, mais on ne sait qu'on se trompe qu'après. J'ai d'ailleurs une petite phrase là, d'Aragon que je trouve très belle. Je ne sais pas si je vais la retrouver parce que j'ai tellement de paperasse. Attendez, il dit, Aragon, c'est extraordinaire. Ici, j'ai tant rêvé. Qu'est-ce que j'écris mal ? J'ai tant rêvé, ah oui, mâchant de l'avenir qu'il me semblait parfois de lui me souvenir. C'est extraordinaire. Mais il faut dire ça parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent qu'on n'était pas con, on était fusion. Hein, on était fusion. Mais qu'est-ce que là, j'ai fait un petit aparté aragonien, là, mais qu'est-ce que je dis ? Là, sur le jeu et le nous, vous voyez ? Et en face, il y avait le jeu individualiste. Et alors, plan, 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 plan. Aujourd'hui, il y a un jeu individualiste, alors, on le voit, vous voyez, hein ? Alors, chacun d'entre nous, d'ailleurs. Mais ce n'est pas le même jeu, pour une part. Pour une part, il est terrible, mais pour eux, il est libéral ou libertaire, je dirais. Mais pour une autre part, il est constructif. Il y a l'émergence dans la société d'un jeu. Je me rappelle d'un livre de Lucien Sèvres sur l'émergence du jeu comme avancée historique fondamentale. Et on ne reconstruira pas le nous qui, malheureusement, avec le mur de Berlin, heureusement que le mur est tombé, mais malheureusement pour les conséquences, s'est évanoui un peu partout. On ne reconstruira pas ce nous, c'est-à-dire le mot commun à l'intérieur du mot communisme, hein, si on ne traite pas du « je » d'une manière nouvelle. Le « je » et le « nous ». Pour moi, c'est une des questions centrales de notre avenir. Et c'est en mettant, comme faisaient les Indiens, l'oreille sur la terre, qu'on entend galoper cette idée-là. Et je m'aperçois qu'elle monte en ce moment. Mais prenons garde, parce que c'est un travail terrible. Moi-même, terrible, enfin au bon sens du terme, moi-même, je nage un peu, je ne sais pas comment il faut faire. Mais en tout cas, il faut l'énoncer. Et puis après, on verra. Mais regardez des questions. Alors, bien sûr, il y a ici, je vais en dire un petit mot, mais je prends d'autres exemples parce que ça existe. Ben, forcément, ça fait un peu anecdotique, mais c'est comme ça. Un jour, à Blanc-Ménil, dans la Seine-Saint-Denis, dans le 9-3, comme vous savez, il y a un théâtre qui s'appelle Le Forum et où il y a une programmation tout à fait intéressante. Et Vlatipa, qu'un texte sort dans la ville disant que ça coûte trop cher à la ville. Vous voyez que ce n'est pas seulement en Occitan qu'on dit ça. Ça coûte trop cher à la ville et qu'il faut arranger ça. Faut arranger ça. Et qu'il faut faire des économies. Et puis, il faut faire une autre programmation. Et alors, il disait dans le tract, il n'y a même pas 50% de ceux qui y vont qui sont de Blanc-Ménil. Vous connaissez ces arguments-là. Et ça faisait de la peine, parce que l'auteur du tract, c'était la section socialiste. Vous vous rendez compte, hein? Alors, les gens de Blanc-Ménil, ils ont dit, comment qu'on fait? Moi, j'ai un copain qui habite Blanc-Ménil, et je lui ai dit, on va faire une réunion, mais je te préviens, je ne viendrai pas seul. Il me dit, avec qui tu viens? Avec Catherine Tascar. Et on y est allés tous les deux, un communiste et une socialiste. Et on a la même opinion, n'est-ce pas? Mais on n'a pas fait de l'antisocialisme. On a traité de la question. Vous voyez? Et je me souviens, dans la réunion, à un moment donné, il y a un gars qui était partisan de... Mais enfin, il n'y a pas 50% de gens de Blanc-Ménil qui sont là. Alors, enfin, ne vous parlez pas comme ça du forum. Puis m'est venue une idée, je vous la redonne. Et j'ai dit, mais quand il y a les élections à Blanc-Ménil, combien il y a d'électeurs? Alors, le gars, il dit, à peu près 50%. Et alors, vous proposez la suppression du suffrage universel. Alors, tout le monde a rigolé. Lui, après, il s'est un peu tu. J'étais le voir après, parce qu'il ne faut jamais tuer quelqu'un. Hein? Mais quand même, j'étais quand même content qu'il ne m'ait pas venu cette idée-là. Et vous voyez, j'ai pris le soin de téléphoner à Catherine Tasca et de lui dire, voilà, la question est tout. Et elle a fait une réunion à la section socialiste après, vous voyez. Je dis ça parce que si on veut se retrouver, il faut en arrêter avec ces exclusions. Toi, tu es communiste, tu es donc stalinien, toi, tu es socialiste, tu es donc je ne sais pas quoi, voyez-vous. Hein. Et alors, et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Il faut construire, vous voyez. C'est une vraie question. D'ailleurs, Bernard, il est confronté à cette question. C'est un socialiste qui dirige le Conseil général. Et c'est mal ce qu'ils font. Et c'est un socialiste qui dirige le Conseil régional. Et c'est bien ce qu'ils font. Mais c'est kafkaïen. Hein? C'est kafkaïen. Vous voyez? Donc, c'est une question importante, celle-là. Hein? Alors, vous voyez l'exemple, finalement, l'exemple de Blanc-Ménil, c'est ça qui montre politique et art, quoi, finalement. Je prends un autre exemple. Je reçois un coup de téléphone, c'est plus ancien. Qui était le suivant. C'est un gars, il me dit, vous ne me connaissez pas, je suis conseiller culturel ou animateur culturel au lycée Louis-le-Grand. Je ne savais pas que dans les lycées, il y avait des animateurs culturels. Enfin, ils en avaient un. Il faut dire que Louis-le-Grand, c'est comme Henri IV. C'est Versailles. Et alors, vous vous rendez compte que cette année, Henri IV, pour les classes prépa, ils ont créé des classes prépa ouvertes aux gosses de banlieue, aux ados de banlieue. Mais c'est des classes prépa pour préparer la classe prépa. Mais enfin, ils ont une générosité en escalier. C'est l'ascenseur social revenant aux vieux escaliers. Vous voyez? Mais c'est quand même quelque chose d'énorme, ça, non? Hein? Faut mieux créer des classes prépa en banlieue. Par exemple, au lycée d'Aubervilliers, on est en train de faire un dossier. Et comme le Collège de France nous rend souvent visite, eh ben, on a une co-signature du Collège de France. Vous voyez? Mais revenons à Louis-le-Grand. Alors donc, il me dit, voilà, je vous téléphone parce que moi, je vis un drame. Je lui dis lequel. Il me dit, voilà, on a un sculpteur en... Comment on dit hein, voilà, en résidence. Ça fait 2 ans, il a encore 1 an. Et alors, il a fait, bien sûr, des discussions, il a parlé d'œuvres, et il a fait deux œuvres. Et ces 2 œuvres ont été à l'origine de Quolibet. Qui continue, quoi. Mais ça, tout le monde le sait, ça. Que sur des œuvres contemporaines, il y a beaucoup de rires, qui sont une manière de se défendre d'une découverte dont on ne perçoit pas le sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui s'amusent à provoquer là-dessus. Mais enfin, tout le monde se rappelle de Picasso, hein. Non? On en a entendu des choses. On en a entendu des choses. Un jour, et Picasso racontait la chose suivante. Là où il habitait, il travaillait, et puis il avait des copains. Il avait des copains... du quartier, quoi, si on veut dire, du quartier du village, n'est-ce pas? Et alors les gars lui disaient, il avait un chien qui s'appelait Casbec, et il lui disait comme ça, mais tu as peint Casbec et ça ne ressemble pas à Casbec. Et il lui dit comme ça, mais quand tu dis chien, C-H-I-N et E-N, ça ressemble à un chien? Ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Enfin bref, je reviens à Louis le Grand. Eh bien, un jour au matin, on arrive, et à coup de marteau, les deux œuvres avaient été cassées. Émotion considérable. Pas beaucoup exprimé. Le proviseur, pas un mot. Ça fait déjà quelques années. Il n'a toujours pas dit un mot. Les professeurs sont restés malheureusement silencieux, sauf un qui est écrivain par ailleurs, Chambaz. Et puis ce sculpteur et cet animateur culturel. Et il dit, il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Il y a un malaise dans le lycée, parce qu'on n'ose pas le... Et on ne sait pas d'ailleurs comment faire. Il dit, vous voulez venir? Mais j'ai dit, moi, je ne suis pas le bon Dieu, moi. Hein? Mais il dit, venez, on parlera de l'exception culturelle. Puis, alors j'ai dit, vous voulez qu'on débouche sur l'exception de Louis le Grand? Alors je vais donc à Louis le Grand. Je note d'ailleurs... Ça compte quand même, la courtoisie. D'habitude, quand je vais quelque part, dans un lycée, par exemple, le proviseur, il vient me dire bonjour. Il n'est pas venu. J'ai considéré ça comme une chose intéressante, parce que ça veut dire qu'il est vraiment mal à l'aise. Bon, alors, mais on avait pris une précaution. Ils ont un groupe théâtre, et ce n'est pas n'importe quel groupe théâtre. C'est celui dont sort Jean-Pierre Vincent, et c'est celui dont sort... Voilà. J'ai un souffleur. Je ne sais pas qui c'est, mais merci. Et alors, Chéreau. Et là, on a vu les jeunes et on leur a dit, vous ne pouvez pas monter une pièce qui nous ferait réfléchir sur la question. Et là, on a choisi la pièce de Yasmina Reza. Ah, vous savez, c'est un copain qui rentre avec une toile blanche. Et vous savez bien ce qu'on peut dire sur une toile blanche. Il y en a qui les embrassent. Voir le procès d'Avignon hier, je ne connais pas le résultat. Mais là, ils ne les embrassent pas. Ils ne sont pas contents. Et ils ont monté ça et on a fait une réunion un mois après. Et il y avait 370 élèves, une dizaine de profs, le sculpteur et sa famille au rang complet. Il avait des enfants, ils étaient tous là. Alors il y a eu, on a vu genre, la pièce, tout. Après, il y a 70 élèves qui sont partis. Puis il en est resté 300. Et alors donc, j'étais l'officiant. Alors vous parlez d'exception culturelle, mais en vérité, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je pensais à l'autre chose. Et on a commencé à en discuter. Et il n'y avait rien à faire, on ne s'en sortait pas. Et alors, c'était l'année suivante de 2002. Et à un moment, il m'est venu l'idée, là, un peu comme pour le suffrage universel, j'ai dit, oh, au fait, où vous étiez l'année dernière, au mois de mai, le 1er mai? Ah, mais monsieur, ou monsieur, on était à la manifestation contre Le Pen. Alors, je l'espérais, mais je ne le savais pas. J'aurais dit, vous étiez à la manifestation contre Le Pen. Mais alors, dites-moi, Le Pen, vous savez ce que vous en pensez. Moi, je pense comme vous. Mais je ne l'ai jamais vu prendre un marteau et aller casser une statue. Et vous qui le combattez ô combien légitimement, parce que c'est vous, vous le savez, vous l'avez cassé, la statue. Alors, ça a fait un choc. On n'a jamais su le nom, on ne le saura jamais, et peu importe, le choc est passé. Et alors, après, ça a été un débat formidable. Mais vous voyez comme quoi, je dis ça parce qu'on dit toujours, les prolos, ils ne comprennent pas. Mais là, Louis le Grand, quand même, c'est plutôt le niveau supérieur, comme on dit. Eh bien, les deux sculptures contemporaines, elles ne passaient pas. Regardez sur ces histoires-là, excusez-moi, faut que je trouve la page. Oh, qu'est-ce que c'est embêtant, quand il y a beaucoup de papier, c'est embêtant. Excusez-moi. Maintenant, non, je prends un autre exemple, ça m'est arrivé. Je suis allé à Chambéry. Ils ont une association qui est dirigée par un professeur d'université en retraite et ils ne s'occupent que de lecture. Et alors, ils avaient demandé à deux hommes politiques de venir lire leur livre. Un UMP et puis Bibi. Mais il n'est pas venu, l'UMP. Mais je ne lui en veux pas parce qu'il a eu un empêchement. Bon, moi, je suis venu. Et alors, on a discuté d'une lettre d'une professeure, et j'ai là la copie, d'une dame qui écrit au prof du lycée de Chambéry. « Monsieur, ce qui suit, vous le mépriserez peut-être, ou bien le taxerez d'étroitesse d'esprit, mais je tiens à vous le faire savoir malgré tout. Je trouve que c'est faire trop d'honneur aux esprits tordus, au dandy défoncé du surréalisme, au poète débauché que de se pencher sur leurs élucubrations de nantis dégénérés. Vos élèves ont entre 14 et 17 ans. Vous n'êtes pas sans savoir, en tant que pédagogue, qu'il s'agit là d'un âge difficile à vivre, que la plupart d'entre eux ont du mal à gérer cette période du passage de l'enfant à l'adulte. Pourquoi donc nourrissez-vous ce mal-être de l'adolescence en leur soumettant à l'étude des textes dont les auteurs souffrent eux-mêmes d'un mal-être, mais soigneusement cultivé celui-là? Ce sont des artistes tourmentés qui ont expérimenté tous les travers de l'âme, revenus de tout, blasés, qui déversent les vues de leur esprit souvent altérées par les drogues et l'oisiveté, quitte à faire réfléchir nos enfants sur des déblatératives sans signification, pourquoi ne pas choisir des excrétions d'artistes plus contemporains? Notre époque ne manque pas d'illuminer. Cela aurait l'avantage d'amener des réflexions sur des préoccupations actuelles. C'est le texte qui avait été distribué, c'est Soleil Serpent de Césaire. Non, je dis ça parce que autant il faut savoir viser quand c'est en haut ou quand c'est l'élu local, mais il faut savoir que c'est haut aussi dans la société. Donc notre bataille, ce n'est pas une bataille. Cherchons un artiste qui sait tout ça. Cherchons un maire qui soit intelligent. Soyons nous-mêmes citoyens intelligents et respectueux de la création artistique et agissant. La responsabilité dont tu parlais si bien au début, elle est là. Vous voyez ? Et on a chacun des moments, vous savez, quand qu'une chose qui ne nous plaît pas. Tout de suite, on a tendance à employer des mots. Alors, vous voyez la lettre de cette dame ? Je ne la connais pas, cette dame. Mais le professeur la connaît, il me dit, elle est parente d'élèves et elle milite. Mais voyez, ben Césaire n'est pas passé. Pourtant, quand même, il a de l'âge. Hein. Eh bien non, il n'est pas passé. Non, l'autre chose que je voulais prendre pour montrer que c'est pas... Dans Le Monde, il est paru un article du directeur de France Inter qui s'appelle Audience et Culture. Je ne sais pas si vous l'avez lu. L'ambition de toucher un large public n'est pas méprisable pour une radio de service public. Qui c'est qui a dit le contraire ? Mais alors, voyez, l'audience n'est pas une abstraction. Qu'est-ce que l'audience, sinon le public, celui à qui l'on s'adresse ? Doit-on considérer l'audience comme respectable parce qu'elle est confidentielle et réservée à un microcosme et méprisable dès lors qu'elle touche un plus large public ? Peut-on imaginer un théâtre sans spectateurs, un musée sans visiteurs, un film sans entrée, un journal sans lecteurs ? Mais alors, peut-on imaginer le directeur de la radio française, là, c'est pas ? Hein ? Ne disant que des sottises, parce que quand même, ce sont des sottises. On le sait bien qu'il y a une diversité, ça s'appelle même la diversité culturelle. On sait bien que le divertissement, ce n'est pas la création, hein, encore qu'il en est très belle, mais de très beau, pardon, ce n'est pas la création. Mais on ne va quand même pas faire l'apologie de ce qui se comprend tout de suite, hein, pour ce qui oblige à une réflexion, qui nous pénètre un peu par effraction, mais qui fait que le lendemain, on est différent et qu'on est plus... J'allais dire riche, j'aime pas ça. On est plus épanoui, voyez. Mais Milan dit des bonnes comme ça. Notre devoir est de nous opposer à toute marginalisation de la radio publique, notamment au sein d'un paysage hyper concurrentiel, sauf à accepter de disparaître à terme, de s'éteindre à petit feu. Se tourner vers l'autre et non pas se tourner vers soi, petit groupe d'initiés. Ben vous voyez, hein, il y a la dame de Chambéry, il y a ce que j'ai dit avant, il y a lui. Et puis, dans le Nouvel Observateur d'hier, il y a un article de Julliard, je ne sais pas si vous l'avez lu, enfin, je ne sais pas si vous lisez le Nouvel Observateur, ça s'appelle « Les assassins du théâtre ». J'ai dit, ça y est, on va avoir un roman policier. Et alors, je lis le début, parce que ça serait trop long, mais pour voir. Il faut bien, à la fin, donner libre cours à une juste colère et dénoncer publiquement cette entreprise inqualifiable qui, depuis une vingtaine d'années, ne tend à rien de moins sous prétexte de les distraire, tiens, je comprends pas, mais enfin bref, qu'à déposséder les Français de leur théâtre. Ce que je vise ici, c'est un travail obstiné, obscurantiste, pour expulser le texte de la scène et lui substituer la dictature arbitraire de ce démiurge autoproclamé et mégalomaniaque que l'on nomme metteur en scène. Et tout le texte est contre les metteurs en scène. Mais il attaque, il prend des exemples, vous voyez ? Alors, bien sûr, il y a une précaution de fin de parcours. Ah, mais il dit que ce n'était pas comme Vitesse, comme Nouchkine, comme Brooke. Mais moi, qui ai beaucoup fréquenté Vitesse, il n'aurait jamais écrit ça. Vous pouvez trouver un mégalomaniaque. Hein ? D'ailleurs, toute personne qui a un pouvoir est quelque part branchée sur son égo, hein, un peu plus qu'un autre. Mais enfin, il faut quand même pas exagérer. Eh ben, il y a un article, un édito, Les assassins du théâtre. Alors surtout, ne pensez pas au ministère de la Culture, surtout ne pensez pas à Madame Lagarde, et encore moins à Madame Parizeau. Vous avez trouvé l'ennemi, c'est le metteur en scène. Parce qu'aujourd'hui, c'est le plus fragile, sans doute. Mais vous allez le voir arriver sur d'autres domaines. Ça, c'est une tentative de taper, quoi. De taper. Mais tout, dans le film français de cette semaine, comme Serrault est mort, alors ils ont fait la star du prime time, c'est Michel Serrault. Peut-être vous avez la télé, peut-être vous avez regardé des films, moi j'ai regardé, puis j'aimais bien Serrault. Bon, il y en a qui me plaisent mieux que d'autres, mais eux, ils font une apologie de... Ils donnent les chiffres, vous comprenez. Alors, il y en a qui font, par exemple, le dernier, c'était... comment il s'appelle ? Attendez, j'en cherche le chiffre. Oui, ah, un cœur oublié, c'est Fontenelle, vous savez. Ah, il a en revanche enregistré le score médiocre de 1,7 million de personnes et 9,3% de PDM par de marché. Mais par contre, il y en a d'autres qui ont fait... Monsieur Léon a enregistré le bon score de 6,97 millions de téléspectateurs et 31,7% de PDM lundi sur TF1. Vous voyez ? Ce langage de chiffres, ce langage de marchand. Et quand je parle de TF1, je ne peux quand même pas oublier que quand TF1 a été vendu, ça a été vendu selon la règle du mieux disant culturel. Monsieur Léon. Et encore, c'est un film qui n'est pas désagréable. Et deuxièmement, le directeur qui vient de partir, d'ailleurs, qui est un grand homme de télévision, ça ne lui retire pas ça, mais n'empêche qu'il a eu cette phrase qu'il fabriquait des cerveaux disponibles pour la publicité. Vous voyez ? Alors, cette question-là, elle est constamment, j'ai pris des exemples d'aujourd'hui, parce que, et on les retrouve ici. D'ailleurs, dans l'article du Monde, il y avait un extrait d'une lettre d'un des conseillers généraux, je pense, et qui opposait Uzest aux nuits atypiques de Langon, et qui disait, voilà, vous voyez, là-bas, il y a du monde, etc., etc. Et cette année, dans le Monde, ils viennent de faire un article en disant qu'ils avaient beaucoup de difficultés. Et comment qu'ils vont faire maintenant pour dire ils ont des difficultés? Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. C'est une voie d'impasse. C'est une voie d'impasse. Mais il faut la battre, quoi. Il faut absolument la battre. Et puis, il y a des interventions de l'État ou autres tout à fait encore plus fortes. Vous avez vu qu'à Bordeaux, c'est pas loin, au musée, il y a quelques années, 7 ans, je crois, il y avait une exposition. L'homme qui en était à l'origine, qui dirigeait le musée, qui aujourd'hui dirige l'école des Beaux-Arts de Paris, Cousseau, un homme, c'est extraordinaire d'ailleurs. Il est poursuivi en justice et les deux femmes qui ont vécu ont fait l'exposition parce qu'il y a une association qui s'appelle La Mouette et qui trouve que ça pouvait être dangereux pour la moralité naissante des petits-enfants. Oui. Il est donc coupable de délit de culture contemporaine. Voyez. Vous venez de voir, je ne sais plus dans quelle ville c'est, que des livres ont été à la grâce dans l'autre, il y a eu comme 8000 livres, je crois, et qui ont été rendus impropres à la lecture par... Ils ont déversé dessus, vous voyez. Donc on a un vrai combat général. Hein. J'ai l'air de parler de cas concrets, mais enfin, c'est parce que, comme il a dit qu'il était concret, Sarkozy, je fais comme lui là-dessus, hein, mais avec une pensée, eh bien... Ça existe, et là, je ne veux pas continuer plus longtemps parce que je deviendrai, embêtant. Mais avant de finir, je voudrais intervenir sur deux questions qui vraiment me tiennent à cœur. La première, c'est la question du travail. Je sais que là, il y a toujours l'UDCGT de la région ou de la Gironde qui vient tous les ans, tout ça, et ils font faire des débats, j'ai lu ça dans le programme. Mais la question du travail, elle est devenue centrale aujourd'hui. Et je trouve que les patrons, certains, pas tous, mais quand même, et le gouvernement, qui sans arrêt disent qu'on ne travaille pas assez, qu'il faudrait mieux considérer le travail, mais enfin, la considération de Sarkozy, c'est le stakhanovisme du 21e siècle. Hein, voyez. Mais je dis au passage que si la gauche avait sur cette question fondamentale de la formation humaine, la place du travail humain, travaillé du point de vue de la pensée, il n'y aurait pas eu un trou béant dans lequel le mari de Cécilia s'était lancé, comme vous voyez. C'est pas gentil pour Cécilia ou pour... Non, enfin, bref, vous avez le droit. Vous avez le droit. Et alors, sur le travail, je voudrais m'appuyer sur le travail, si j'ose dire, d'un homme que j'estime beaucoup, qui s'appelle Yves Clos, qui est titulaire de la chaire de psychologie du travail au CNAM. Parce que ces gens-là qui disent « mais il faut travailler, on s'occupe de vous, faites des heures sup et on vous paiera mieux », etc., etc., on va voir, hein, mais on sait d'avance, ils ont l'air de considérer le travail. Mais Yves Clos, lui, tu te rappelles, dans une réunion que nous avions fait en commun, ce qu'il a dit. Il dit ça, je le lis, parce que quand c'est bien dit, pourquoi essayer de dire autrement ? Il faut remettre la France au travail, l'argument est à la mode. Et sur les tribunes, l'approximation n'effraie pas. Efficacité et intensification du travail seraient purement et simplement la même chose. Pourtant, dans la réalité professionnelle, la course aux chiffres mine l'intelligence du but à atteindre, l'ingéniosité et la qualité de l'acte. La tyrannie du court terme laisse les femmes et les hommes aux prises avec un compactage du temps qui use le corps et l'esprit, parfois jusqu'à la rupture. L'obsession des résultats et le fétichisme du produit imposent la démesure d'un engagement sans horizon. Travaillez plus, expirez, inspirez, du rythme. Le travail est fait pour travailler. On respire dehors. On respire dehors. Et pourtant, sous le masque d'une mobilisation de tous les instants, une immobilisation psychique insidieuse fait son nid. D'un côté s'avance une sorte d'externalisation de la respiration, figure moderne du travail en apnée. Mais de l'autre, cette suractivité ressemble de plus en plus à un engourdissement. Le travail est malade, enflammé et éteint à la fois, gâté par le manque d'air. Il essouffle ceux qui travaillent sans reposer les autres, ceux qui sont livrés à la respiration artificielle des appareils du chômage de masse. De grâce, ne mettons pas ce type de travail au centre de la société. Il y est déjà trop. En vérité, qu'est-ce que ça sous-tend, ça ? C'est que tout être humain, quel qu'il soit, est porteur de curiosité, d'imagination, d'invention. Il a un imaginaire. Mais dans ces conditions du travail, cela est massacré. Il faut le savoir. Et ça ne se récupère pas. Et nous sommes à cette période-là aujourd'hui. On parle de la précarité. Mais c'est une des dimensions de la précarité. C'est une violence à l'humanité dans ses profondeurs intimistes de chaque être, n'est-ce pas ? Il avait une belle comparaison, Yves Clos. Vous savez, il y a une nouvelle de Tennessee Williams qui s'appelle « Boxeur manchot ». Et ils disent, le grand patronat rêve de salariés, je dis bien de salariés, l'ouvrier, oui, mais le cadre. Voyons les trois morts de chez Peugeot et les cinq morts de chez Renault. On ne se suicide pas par plaisir, non ? Eh bien, c'est ces questions-là qui sont posées, ça. Eh bien, ces gens, ils deviennent des boxeurs manchots. Voyez, c'est une des grandes questions contemporaines, aussi importante que le je et le nous. On doit travailler sur ces questions-là en ce moment. Sur ces questions-là en ce moment, voyez. L'efficacité du travail est pourtant tout le contraire de cette intensification factice. Car au fond, travailler, on le sait, on le sent. C'est aussi le loisir de penser et de repenser ce qu'on fait. C'est le temps qu'on perd pour en gagner, l'imagination de ce qu'on aurait pu faire et de ce qu'il faudra refaire. La source insoupçonnée du temps libre se trouve là, dans l'interruption de l'action, là où l'action bute sur ses limites, dans la disponibilité conquise au travers du résultat, par-delà le déjà fait et au-delà du déjà dit. Le temps libre, c'est d'abord la liberté qu'on prend de ruminer son acte, de le jauger même, et surtout différemment de son collègue, avec son collègue, contre son chef, avec son chef. La possibilité gardée intacte de s'étonner, la curiosité nourrie par l'échange au sein de collectifs humains dignes de ce nom, branchés sur le réel qui tient si bien tête aux idées reçues, où la pensée circule pour progresser. Mais je serai trop long. C'est paru dans la Croix, ça. Vous voyez, parce que peut-être dirait, vous avez parlé beaucoup de l'humanité par rapport, hein, et puis du monde aussi. Mais dans la Croix aussi, il y a des bons articles dans la Croix. Il y a des bons articles. Donc vous voyez, cette question du travail, elle est fondamentale. Fondamentale. Et elle n'est pas assez travaillée. Et pourtant, il paraît des bouquins intéressants. Je vous en conseille un dans la collection d'un petit éditeur qui s'appelle La Dispute. C'est des conducteurs de TGV qui racontent leur travail. Comme ça. Extraordinaire. Alors, si vous cherchez de l'intelligence, là, il y a des concrétions. N'est-ce pas ? Et cet été, j'étais au Festival de Montpellier où c'était le 15e anniversaire de la mort de Dominique Bagoué. Et les carnets Bagoué viennent de sortir un livre. Et il y a assez gros, je crois qu'il fait 400 pages ou 300 pages, je sais, 350. Et toute une partie, c'est les débats entre danseurs sur leur métier. Et puis devant, il y a un universitaire de Paris 8, c'est une jeune femme, qui a fait une étude, un bouquin éblouissant, complètement à l'heure d'aujourd'hui, qui assume le travail, le jeu, le nous, l'art et la politique. Moi, je le conseille comme expérience, n'est-ce pas ? Et je trouve, après avoir lu les articles de l'UMA, que l'UBA, il devrait décider, je ne sais pas avec qui, mais il trouvera, il est assez malin, un chercheur qui ferait la même chose. C'est-à-dire tous les débats qui ont eu lieu, y compris les débats sans parole, mais avec beaucoup d'oreilles, hein, eh bien, essayer de les transcrire. Et puis avec une étude là-dessus, ça peut demander un an de travail. Ça pourrait être quelque chose qui serait programmé pour que l'année prochaine, ce soit prêt. Voyez, mais qu'on puisse témoigner avec une œuvre qu'on diffuse de la profondeur du travail qui se fait ici, du travail artistique, du travail humain, de l'invention, etc., etc., et de la rigueur. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est celle de l'immatériel. Parce que c'est vrai que la société est en train de bouger de ce point de vue-là. Et alors, il est paru un livre, je vous le montre, parce que quand on le voit, on a envie de le lire. C'est la Documentation française. Ça vaut, je vais vous dire le prix, 10 euros. Et ça s'appelle L'économie de l'immatériel. C'est une vraie question, l'immatériel, sa place dans la production, dans la société. Alors, il est signé par Maurice Lévy, c'est le PDG de Publicis, et Jean-Pierre Jouyet, qu'on ne connaissait pas, mais qu'on connaît maintenant, et qui était à ce moment-là président des inspecteurs des finances. Alors Thierry Breton avait donc demandé à ces deux hommes de bien vouloir animer une commission pour réfléchir sur la croissance de demain. Alors il l'avait formé, ça, avec beaucoup de sagacité. Il y avait 8 inspecteurs des finances, 9 industriels du privé. Des fois, on dit, mais comment ils font pour être aussi vrais ? 9 industriels du privé, dont Publicis, 5 universitaires compétents, réellement, d'ailleurs, sur l'image, sur ces questions-là, vous voyez. Et puis un artiste. Il y avait un artiste pour discuter de l'immatériel. Un artiste, hein, ben, un otage, oui. Hein, un artiste. Et d'ailleurs, vous savez, moi, je le connais bien, ça ne compte pas à moi, mais il était malheureux comme tout. Mais comme il avait été mandaté, ceux qui l'avaient mandaté disaient, non, il ne faut quand même pas faire d'esclandre. Donc, il n'a pas osé, à la fin, mettre une petite note en disant, j'ai participé à tout ça, j'ai beaucoup appris, mais je ne suis pas d'accord. Il aurait pu dire simplement ça. Ce n'était pas un gros travail. Il ne l'a pas fait, il a eu tort. Mais il ne faut pas lui en vouloir, si ce n'est qu'il aurait dû le faire. Pour celui-là, je lui en veux un peu. Mais vous voyez la commission, comment elle est composée, hein ? Quelqu'un, on aurait dû nommer Julliard. Peut-être qu'il aurait emmené quelques metteurs en scène. Mais là, la mise en scène, elle est faite, et c'est ce bouquin-là. Alors, c'est une grande question, hein, et je ne suis pas capable de la régler. Mais il y a des choses qui me frappent quand même, vous voyez. C'est la révolution technique, ça vous savez. Et alors, je vais vous prendre des extraits. Mais il n'y en a pas beaucoup, parce que... Attendez. Ils transforment les hommes en actifs immatériels, vous voyez. Alors, notre principale richesse, c'est l'homme. Bon. Il convient de traiter économiquement le capital humain. Ça me fait penser à Staline, ça. L'homme, le capital le plus précieux. L'immatériel devient la principale source de création de valeur, voyez. Mais il convient de traiter économiquement le capital humain. L'objectif, c'est devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique. Et alors, la notion d'immatériel, parce que quand même, qu'est-ce que c'est que cet animal, là ? J'ai regardé dans le dictionnaire, hein ? Mais ce n'est pas un mot qui est beaucoup, comment dirais-je, inventorié. J'ai fait un petit truc comme ça dans le dictionnaire. Alors voilà, dans le rapport, il est appliqué à l'innovation, pourquoi pas, à la recherche, à la formation, à l'enseignement, au design, à la mode, en passant par la créativité, le jeu vidéo, la publicité, les marques, par exemple le Louvre, pour Abu Dhabi, hein, l'entertainment et même l'esprit d'entreprise. Vous voyez, comme immatériel, page 39. Les autres catégories d'actifs immatériels, l'ensemble du champ des immatériels liés à l'humanité, à l'imaginaire, page 53. Ce qui permet de mettre sur le même plan la création artistique et culturelle, la publicité ou les marques, n'est-ce pas ? C'est une sorte d'équivalent général dont parlait Deleuze, par exemple. Je ne veux pas aller plus loin, mais soyez curieux. Allez, rue, si vous êtes de Paris, vous allez sur le quai Voltaire, là. Puis 10 euros. Hein ? Ouais, et ailleurs, ben, on écrit, puis il envoie, n'est-ce pas ? Et puis dans les centres pédagogiques. Vous voyez ? Eh bien, tout ça, ça s'appelle de la censure, moi, je dis. C'est les rapports de l'État aux arts. Mais c'est la censure par délégation de censure et qui débouche sur l'auto-censure. Et c'est parce qu'on a naturalisé certains phénomènes de société. Moi, un jour, j'étais à l'UNESCO, un débat qui était fait avec, vous savez, le monsieur qui est au Monde, là, qui n'a pas eu les voix qu'il fallait pour rester, mais qui est resté quand même, à la Minque. Et alors, il était invité par des diplomates, puis il s'était rendu compte à la dernière minute que peut-être, invité juste à la main, qu'il faudrait peut-être mettre un contradicteur. Il m'avait invité, je vous dis franchement, j'avais peur. D'abord, je suis assez traqueur, mais là, vraiment, j'avais peur. Parce que je disais, quand même, il en connaît des choses. Et moi, c'est pas mon métier. Et alors, on commence, c'est lui qui parle le premier, c'est normal. Il avait été applaudi, vous auriez vu, et moi, courtoisement. Mais ça me suffisait. Et alors, il parle, et il commence comme ça. Mesdames, messieurs, chers amis, si vous voulez comprendre mon propos et comprendre la société, je vous demande une chose. Retenez cette phrase. Le marché est naturel comme la marée. Écoutez, c'est un des bonheurs de ma vie. J'ai dit, tu t'en sortiras pas, tu vas voir. Là, j'ai plus peur. Surtout que ça me rappelait 8 jours auparavant un colloque au Sénat où M. Madelin, parlant des nouvelles technologies, disait les nouvelles technologies sont naturelles comme la gravitation universelle. C'est-à-dire... ces inventions humaines, le marché et les nouvelles technologies qui sont importantes, qui ont été faites pour que les hommes s'en servent, eh bien là, il les accapare, il les naturalise et dans un même mouvement, il dénaturalise l'homme et la femme, qu'ils deviennent des êtres subsidiaires, des invités de raccroc. C'est comme si à Longchamp, vous voyiez rentrer, au lieu de voir les chevaux portant des jockeys portant les chevaux. C'est l'inversion totale de l'humanité. Mais voilà des conférences. Alors, vous imaginez bien que je n'ai pas été très gentil. Mais courtois quand même. Mais je vais vous dire le résultat. À un moment donné, je le vois fouiller dans sa poche. Il sort un petit truc comme ça, il regarde. Et il se penche vers moi, parce que c'était un monsieur qui parlait pendant ce temps-là. Oh là, il dit, quelle bêtise. J'ai un rendez-vous, je n'ai pas pensé. Il s'est excusé. Il est parti. Il a été applaudi. Courtoisement. Et moi, quand je suis parti à la fin de l'heure, n'est-ce pas, comme prévu, j'étais applaudi comme dit au début. Comme quoi, on peut changer les choses au cours d'une réunion. Mais enfin, ça, c'est une boutade, n'est-ce pas ? Bon, je ne veux pas, comment dirais-je, aller plus loin, je veux m'arrêter. Je voudrais simplement terminer en me servant... Alors, vous avez des questions au niveau de l'Europe, au niveau de la mondialisation, mais tu les as, abordées. Mais le marché, il pénètre partout quand même. Une petite anecdote. Quand il y a eu la loi sur la DAVSI, entre les internautes et les auteurs qui se sont battus alors avec un plaisir énorme, alors que c'était des grands groupes qui se battaient et qui chacun mettait un drapeau devant lui, soit l'auteur, soit l'internaute, n'est-ce pas ? Hein ? Et moi, j'ai eu la curiosité de faire la statistique sur le débat à l'Assemblée nationale. Il y a eu 17 séances, 12 fois a été prononcé le mot « droit moral » et 114 fois le mot « marché ». Et la première séance, qui est une séance préface, hein, le droit moral 0 fois et le marché 29 fois. C'est-à-dire que c'est rentré dans la circulation sanguine du débat parlementaire. Vous voyez ? C'est vrai ? Ça, c'est une question sur la responsabilité là, que tu évoquais tout à l'heure. Mais je voudrais simplement terminer en citant un monsieur que je connais depuis la guerre de Bosnie et que je trouve extraordinaire, qui s'appelle Predrag Matvejković et qui est professeur à l'Université Sapienza de Rome. C'est un très grand dissident de la Yougoslavie. Moi, je l'ai connu à Sarajevo pendant la guerre et on est devenu vraiment très proches. Il est venu au Bervilliers faire une conférence sur un roman d'Andrić, Le pont sur la Drina, vous savez, le pont qu'on traverse pour l'Orient et l'Occident. C'est un livre merveilleux. Si vous ne l'avez pas lu, allez le chercher, en même temps que l'autre. Là. Mais allez le chercher, allez le chercher. Et alors, il faisait son intervention, c'était dans un lycée d'Aubervilliers, il y avait 350 personnes, c'est vraiment bien. Il faisait son intervention, et à un moment, il dit comme ça, vous savez, on a tous un héritage, et on doit le défendre. Mais dans un même mouvement, on doit s'en défendre. Autrement, on a un retard d'avenir. Je trouve cette expression extraordinaire. On est inaccompli. Et moi, je présidais, je lui ai dit, tu permets que je t'interromps. Il m'a dit, si tu veux, tu sais que Char a dit, l'inaccompli bourdonne d'essentiel. Eh bien, dans les rapports rares et politiques, hein, je trouve que cette phrase de Predrag et cet extrait de poème, parce que c'est un extrait de poème de Char, ça nous donne comme un sujet de baccalauréat, mais ça serait un sujet de société, et en même temps l'esprit dans lequel on doit l'aborder. Alors bien sûr, j'aurais pu être plus long, mais je vois bien que ça commencerait. En tout cas, si on peut terminer quand même par un truc, c'est Aragon qui dit « Agir, travailler, répondre, pas de petite digue qui ne mérite qu'on la garde, ne pas dormir. » Et j'ai l'impression que je ne vous ai pas endormi, et je sens que vous êtes éveillés, mais réveillez les autres qui ne se sont pas encore éveillés. En tout cas, c'est une des grandes questions de la société et sans doute dans les deux jours qui viendront, on pourra, sur un éventail plus large, comment dirais-je, y aller, quoi, y aller. Voilà, merci de votre attention. Excusez-moi si j'étais un peu long.
Alors, après tant de choses et à une heure déjà avancée, que voulez-vous faire ? Bon, on peut ouvrir un peu de débat. On a encore un petit moment. Si vous avez des envies de réagir, Jacques a fait une fresque tellement à la fois profonde historiquement, large du point de vue de la réflexion, que vous avez peut-être aussi envie de digérer un peu tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de réagir tout de suite ? D'autres personnes prêtes à se...
S'il vous plaît, le « je » et le « nous ». On en a un brillant exemple en politique entre ce qui s'est passé chez les anti-libéraux avant les élections présidentielles. Nous, nous étions majoritaires. Mais « je » était battu.
Merci pour cette remarque. D'autres... Voilà, monsieur.
Ça y est, j'ai retrouvé mes esprits. J'ai mal dormi cette nuit, 300 km de voiture. Vous dites, si vous voulez, au sujet de la pensée, vous dites, aussi bien Jacques que vous-même, la pensée dominante dit il faut arrêter de penser. Moi, je pense que ça ne correspond pas à ce qui se passe chez eux dans la pensée dominante. Il y a un paquet de cerveaux internationaux, y compris avec les médias modernes, qui passent leur temps à penser. Et donc, je suis en désaccord avec ce point. Il y a un deuxième point. Je suis fatigué, alors j'arrête pour...
Je crois qu'on est d'accord. Dans les expressions que j'ai employées, elle dit « on pense, mais arrêtons et travaillons ». Et l'autre, il dit « je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit, je suis dans le concret ». Mais vous avez raison, il pense, mais il veut le dire aux autres, c'est pas la peine de penser. D'abord, on pense pour vous, voyez. Mais quand vous avez raison de faire ça, si mon intervention a pu laisser planer cette idée, ce qu'ils veulent, c'est que les autres ne pensent pas. Et l'exemple du travail, ils parlent du travail comme... ils caressent les travailleurs dans le sens du poil. Hein, mais ils le méprisent, le travail. Dans l'exemple que j'ai donné à partir d'Iflo. Voyez, mais il reste quand même que être président de la République, être ministre de l'économie, être présidente du CNPF, et oser ces trois phrases que j'ai dit, c'est effectivement une pensée. Mais je pense qu'on doit avoir d'autres ambitions sur ce plan-là. Voyez, mais vous avez raison, il pense, bien évidemment. On peut même dire que l'UMP, qui pendant 5 ans n'a pas arrêté de faire des colloques de pensée, pendant qu'ailleurs, c'était des colloques de tendance, hein, eh bien, ils ont créé un corpus de pensée, une espèce de néoconservatisme très dangereux. Vous voyez ? Donc, il faut effectivement y aller. Mais c'est aussi la méthode qu'ils font pour faire avancer leur pensée. C'est-à-dire, nous, on pense et vous, suivez.
Oui, moi j'ajouterais que ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il y ait une visibilité, une cohérence de la pensée des autres. C'est surtout ça, parce que c'est vrai que tout le monde pense. On ne peut pas empêcher les gens de penser. Mais c'est aussi ça, notre responsabilité à gauche, c'est de n'avoir pas su donner, ces dernières années, ces derniers temps, une visibilité et une cohérence à une pensée forte. Alors je reviens à l'organisation de nos débats, de notre œuvre commune. Si vous n'avez pas d'autres remarques et que... Si, il y en a une, alors allez-y. S'il y a des remarques, prenons-les.
Oui, sur la relation entre le politique et l'artistique. Et tout à l'heure, Jacques évoquait la délégation de censure. Et il y a un festival qui n'était peut-être pas connu au niveau national, mais qui était le Festival du Marais Poitevin, et qui est dans le fief de la présidente candidate, Madame Royal. Et dans sa décision de tuer l'association qui organisait ce festival et un travail tout au long de l'année, je trouve que dans la délégation de censure, il y a une phrase qui est intéressante et je vous la donne. Elle dit, dans la justification pour supprimer les 80 000 euros, il apparaît nécessaire de refonder un projet devant rassembler l'ensemble des collectivités du Marais, c'est-à-dire 19 communes. En disant ça, elle dit bien, c'est les communes qui décident. La censure, c'est elle, puisque ça fait 3 ans qu'elle avait l'intention de nous faire mourir. Mais elle s'appuie sur les élus locaux parce qu'elle sait que c'est le plus facile.
Oui, merci pour cet exemple qui donne à réfléchir. Encore des prises de parole ? Oui, allez-y.
Une simple remarque au sujet de l'université que j'ai découvert très tard. Je pense que, je m'excuse pour les universitaires, mais moi j'ai eu affaire à des universitaires qui pensaient beaucoup, mais qui pensaient à côté du monde réel.
Merci. Je vais y penser. Oui, sans problème.
Par rapport à ce que dit la personne là, sur ce qui se passe en Poitou-Charente, là, par rapport aux collectivités locales, là, j'ai vu, il y avait un article dans Le Monde récemment d'un monsieur qui parlait de son travail et tout, et qui disait mais on est en difficulté financière, alors il faut que ça soit clarifié. Bon, que l'État se retire, ma foi, on peut comprendre, mais il faut alors un engagement des collectivités locales. Mais c'est aussi une solution, comment dirais-je, qui a la dimension que vous dites, mais aussi la dimension financière. Hein, elles n'en peuvent mais. On ne peut pas faire ce qui pouvait être fait avec une aide de l'État quand l'État se retire. Puis si l'État se retire, bah, certaines collectivités locales, il y en a qui sont contentes parce qu'elles n'aiment pas l'État, mais la majorité, elles disent, eh oh, qui c'est qui va payer ? Vous voyez ? Et alors, l'attaque contre les artistes se trouve avoir un espace... comment dirais-je, nouveau, quoi. Mais je pensais, par rapport à ce qui vient d'être dit sur les universitaires, là, et les universités, comme on vient de voter la loi, enfin voter, moi j'ai voté contre, mais sur les universités, la loi sur l'indépendance. Là. Je notais que dans les documents européens, tous les pays d'Europe sont d'accord sur les cinq fonctions, les quatre fonctions des universités. Formation, recherche, citoyenneté et conseil. Mais dans la vie, ça se trouve tendanciellement limité à formation et conseil, c'est-à-dire à des fonctions utilitaires. Vous voyez ? Et c'est net, il faut analyser, quoi. Hein ? Il faut regarder les documents qui paraissent et tout ça. Des fonctions utilitaires. Parce qu'il y a un mot, là, j'en ai pas parlé parce que j'aurais été trop long, mais là je reprends. C'est le mot utile. On ne financerait que ce qui est utile. Mais ce qui est utile, c'est ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire soi-même, ce dont on a besoin, etc., etc. Mais l'art, c'est pas de l'ordre de l'utilité. Il y a même un poète, Jacotet, qui dit que l'État doit reconnaître la place des artistes. Mais il doit les reconnaître d'abord parce que l'art est inutile et inutilisable. Et il y a une pensée de bataille là-dessus. Il dit toujours que dans une discussion, quand le mot utile vient, il ajoute, c'est sa pensée à lui, il ajoute, vous pouvez être sûr que le fondamental ne sera pas évoqué. Et je pense qu'il a raison. Vous voyez ? Et comme en ce moment, on est dans une société du présentisme, de l'éphémère, de tout de suite, ben, tout de suite, c'est l'utile. Ça, on ne pense pas dans l'avenir. Et c'est un très gros, un très, très gros travail. Puis il y a une question que je n'ai pas évoquée, mais qu'il faudra sans doute évoquer. C'est, on a dit « je » et « nous », mais c'est la considération de l'autre. De plus en plus, l'option d'autrui est abîmée, quoi. Vous savez, le maire de Venise, il dit comme ça, « le pluralisme, c'est très bien ». N'est-ce pas ? Mais à condition que chacune de ces parties ait de l'hospitalité pour l'autre. Or, aujourd'hui, il y a du pluralisme, n'est-ce pas ? Il y a une diversité culturelle, mais restons au statu quo. Et la considération de l'autre, ça ne va pas. Il faut redevenir rimbaldien. Je est un autre. Et on a le droit d'avoir plusieurs autres. Ça, c'est une grande question. C'est la base de la psychiatrie, mais c'est aussi la base de la vie. Vous voyez ? Et c'est une question aussi, ça.
Oui, d'ailleurs, pour revenir à « on ne pense pas dans l'avenir » et à la question des autres, je voudrais revenir sur ce que tu disais sur l'immatériel. Dans la catégorie de l'immatériel, on met aujourd'hui une chose qui est particulièrement destructrice de l'avenir des autres, qu'on appelle les produits dérivés. Les produits dérivés, ce sont ces spéculations que l'on fait sur les récoltes du café des Brésiliens dans 3 ans, que des spéculateurs d'aujourd'hui vont acheter, en fixant évidemment le prix, avec des énormes machines à calculer et des grosses têtes qui font ces calculs-là, de manière à ne pas se tromper et acheter la récolte du café dans 3 ans à un prix à peu près assuré comme étant inférieur à ce que sera le prix à ce moment-là. C'est comme ça que se fait la spéculation. C'est ça qu'on appelle l'immatériel aujourd'hui, c'est-à-dire de la destruction d'avenir des autres. Moi, je ne vais pas prolonger le débat, mais c'est vrai que Jacques a dit tant de choses que ça engendrait toutes sortes de questions, rapprochements, etc. Quand tu as parlé des statues saccagées de ce sculpteur moderne à Louis le Grand, moi, je ne pouvais pas m'empêcher de faire la comparaison avec quelque chose qui est dans mon champ de préoccupation très fort, qui est l'incroyable destruction de tout un passé artistique par les guerres, mais notamment, alors heureusement, Le Monde, dans une série de ces jours-ci, en a reparlé un peu, la destruction de champs archéologiques de fouilles en Irak, dans lesquels l'armée américaine s'est installée là, sur le site de Babylone. Et puis alors on creuse, on détruit, de telle sorte que les chercheurs, mais est-ce qu'on entend leur voix ? On l'entend à peine. Hein. Les chercheurs disent qu'on détruit des possibilités de fouilles et donc de découvertes nouvelles sur tout ce passé. Donc tout ça fait partie de ces questions énormes de responsabilité. Il y a une question.
Un, deux, je ne sais pas comment on va organiser justement sur les 3 jours ces ateliers. Moi, ce n'était pas par rapport justement à Ralit, c'était plutôt par rapport à votre intervention qui m'a beaucoup intéressé. Et j'allais revenir sur ce lien avec l'Irak. Parce que pour un certain nombre de Français, c'est passé un petit peu comme insignifiant. Pour moi, c'était très, très important. Pour la première fois, l'ONU avait joué un rôle. C'est-à-dire n'avait pas donné l'autorisation aux États-Unis de pouvoir intervenir. Pour une majorité de mortels, oui, ça n'empêche, la guerre a lieu et il y a des morts. Et moi, c'est pour ça, en tant que juriste international, ça m'intéressait de savoir quelle réflexion vous poussiez dans ce sens à partir du moment où on peut se féliciter que l'ONU ait commencé à jouer un rôle. Mais après, comment se dote donc, comment se dote au niveau de la planète pour faire respecter une décision de l'ONU? Et dans ce sens, j'ai bien aimé compris quand vous avez travaillé ce parallèle, comment en France, on réfléchissait plutôt un peu trop dans le concept de la nation, même si maintenant on avance sur la question de l'Europe, mais par rapport à cette question, y compris quelles règles communes au niveau de la planète nous pourrions nous donner et comment faire respecter des choix, je pense que là, il ne s'agit pas de vouloir qu'une majorité impose à une minorité, il n'empêche que ce choix de refuser l'autorisation aux États-Unis de pouvoir intervenir en Irak, à mon avis, est un sujet de réflexion qui mérite de prendre du temps.
Oui, alors moi j'ai très envie évidemment de commencer à vous répondre, mais ça va prendre beaucoup de temps. En l'occurrence, l'ONU n'a rien fait d'autre que d'être obligé de bloquer l'accord à la guerre parce qu'il y avait un pays membre du Conseil de sécurité, la France, qui avait prévenu qu'elle mettrait son veto. C'était donc plutôt une faculté d'empêcher qu'une faculté de faire. Mais je veux bien, je ne demande pas mieux qu'on y revienne, parce qu'à mes yeux, vous le savez, c'est absolument capital. Moi, j'ai envie de vous proposer une méthode de travail pour demain et après-demain. On a toutes ces questions qu'on a déjà soulevées et qu'on va prolonger, mais pour ne pas que ça parte trop de manière dans tous les sens et qu'on soit un peu frustré, je propose que tous ceux d'entre vous qui ont, dans l'après-midi ou dans la soirée, des idées ou des questions, vous preniez des petits papiers, que vous mettiez ça et que vous le déposiez à l'accueil. Moi, je ramasserai ça ce soir, en fin de journée, et puis je verrai comment demain on peut, avec Jacques, réordonner un peu le débat. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui vous intéresse prioritairement par rapport à toutes les questions qu'on a soulevées, et sur quoi vous avez envie de revenir, sur quoi vous avez envie d'intervenir vous-même. Ça vous dit ? Voilà. Donc, je passerai en fin de journée et encore demain matin, ramasser vos petits papiers, et on travaillera avec ça. Donc, à demain.
Merci.
Merci à tous.